guide vers la vraie paix, où l'excellence de la prière intérieure et spirituelle introduction. Le texte en bleu peut accéder à des références bibliques ou à des détails dans les écrits. Le guide vers la vraie paix est compilé principalement à partir de la méthode courte de prière de Madame Guyon, des maximes des saints de Fénelon et du guide spirituel de Molineaux. Les auteurs de ces trois classiques mystiques furent des figures marquantes de ce mouvement du XVIIIe siècle en France et en Italie. La vie dramatique et tragique de Jeanne de La Motte-Guyon, 1648-1717, est décrite avec vivacité dans son autobiographie. Fénelon 1651-1715, archevêque de Cambrai et précepteur du petit-fils de Louis Xive, fut son ami et un converti. Miguel de Molineaux, 1640-1697, était un prêtre espagnol qui vint à Rome, où il obtint le soutien du pape et un large public, révolutionnant presque toute la secte romaine. Les jésuites, qui les persécutèrent tous, allant jusqu'à assassiner Molineaux par des tortures répétées, appelèrent avec dérision les enseignements du silence devant le Seigneur quiétisme, à cause de l'enseignement selon lequel Dieu n'est connu que par la prière du silence intérieur, lorsque toute pensée et tout sentiment humain sont apaisés. Le quiétisme et Molineaux sont encore condamnés aujourd'hui comme hérétiques par la secte romaine. Au-delà de toute compréhension humaine, cette même secte défend l'Inquisition qui a assassiné Molineaux, s'appuyant sur un verdict issu d'un aveu obtenu sous la torture, sans jamais remettre en question la monstruosité d'un corps parmi les plus corrompus de l'histoire à se réclamer du nom de chrétien. Que les versets ci-dessous suffisent à convaincre de leur perfidie et de leur opposition injuste à la simple soumission de l'âme à notre Seigneur. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Zacharie 2 trait en vérité, mon âme attend Dieu en silence, de lui vient mon salut. Psaume 62, 1 L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, 20 C'est dans la repentance et le repos que vous serez sauvés, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15 Les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. Jean 6, 63 Ne te précipite pas à ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de dire une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, 2 Je mets en garde le lecteur, qu'il ne s'appuie pas sur ses écrits pour une description du but ultime, l'union avec Dieu et l'entrée dans le royaume des cieux, car apparemment, ces personnes n'avancèrent pas spirituellement aussi loin que George Fox, au point d'être transférées dans le royaume des cieux et d'y vivre. Leur vie ne témoigne pas de la puissance du Saint-Esprit les utilisant pour susciter un tout nouveau corps de croyants, comme les 650 000 Quakers de Fox. Au contraire, elles furent limitées à une influence à l'intérieur de la secte romaine. Elles ne parlaient pas depuis la présence du Seigneur et ne disaient pas « Écoutez la parole du Seigneur » comme le faisait Fox. Elles n'identifièrent jamais leur secte comme faisant partie de Babylone, ni ne remirent en question la validité des désignations de saints de leur secte. L'une ou l'autre de ces choses aurait entraîné leur exécution immédiate. Si l'arbre est pourri de l'intérieur, il ne peut être réformé. La secte romaine qu'ils cherchèrent à réformer les dévora, assassinant Molineaux et forçant Fénelon et Guyon à des compromis, ce qui les rendit insignifiants. Guyon, Fénelon et Molineaux eurent apparemment des désaccords entre eux, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas l'unité de l'esprit et le lien de la paix dont jouissaient les premiers Quakers. Leur temps sur Terre coïncida avec celui de Fox, et pourtant nous ne voyons aucune trace d'une communication avec Fox ou avec les Quakers. Il est certain qu'ils furent tous enseignés, jusqu'à un certain point, par le Saint-Esprit. Mais leurs écrits ne devraient être utilisés que comme des orientations individuelles pour attendre Dieu dans un silence humble et comme un encouragement à attendre Dieu lui-même, non comme l'authentification du résultat final. Molineaux, en particulier, alla plus loin que les autres, réformant largement l'Église romaine, mais pas au point de neutraliser ses futurs bourreaux, les jésuites. Molineaux refusa tout compromis et fut torturé à mort. Fénelon compromit fortement ses positions et fut autorisé à finir sa vie comme prêtre dans un village reculé. Après plusieurs emprisonnements, Madame Guyon fit des compromis, mais dans une moindre mesure que Fénelon, afin de vivre sous la surveillance d'un prêtre à la campagne. Ni Fénelon ni Guyon ne publièrent plus jamais, ni ne firent de nouvelles déclarations publiques. En contraste, Fox, bien que sévèrement emprisonné dans sa vieillesse pour avoir voyagé le dimanche et refusé de prêter serment, refusa à plusieurs reprises les pardons offerts par le roi, parce qu'il ne voulait pas déshonorer la vérité, croyant qu'accepter un pardon serait une admission implicite de faute. Il resta en dure détention, en très mauvaise santé, jusqu'à ce qu'il puisse être libéré par une longue procédure judiciaire qui annula le fondement de son emprisonnement. Attention. Ce petit livre fut largement diffusé parmi de nombreux Quakers au XIIIe siècle, dont une infime minorité seulement vit jamais son salut, ce que je suggère être parce que, comme la parole du Seigneur au-dedans l'a dit, il est long sur le silence et court sur l'obéissance. L'obéissance est la seule manière de progresser. De la parole du Seigneur au-dedans, sans obéissance tu n'as rien. Oui, il faut être humble, oui, il faut être silencieux, oui, il faut écouter, oui, il faut entendre, mais ensuite, il faut obéir à ce qu'il t'est commandé de faire sans hésitation, sans retour en arrière, obéir à ses commandements et continuer d'obéir. Sans obéissance aux commandements entendus, il n'y aura aucun progrès. Le sceau du Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent, Actes 5, 32. Ceux qui obéissent à la vérité ont l'âme purifiée, 1 Pierre 1, 22. Il, Jésus, est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui lui prêtent attention et lui obéissent, Hébreux 5, 9. Si tu nies ce qu'il te dit à ton sujet, tu fais de lui un menteur. Sa parole alors ne parvient pas à s'emparer de toi, ni à être plantée dans ton cœur. Mais si tu le crois lorsqu'il dit la vérité, si tu crois que celui que tu entends parler est le Fils de Dieu, tu obéiras et alors tu progresseras. Tu progresseras jusqu'à un état sans péché, jusqu'à témoigner de la pureté, de la sainteté, de la perfection, étant libéré même du désir de péché, destruction de l'homme résiduel de péché au-dedans de toi par l'éclat de sa venue, voyant ton nom écrit dans le livre de vie, union avec Christ et le Père, entrée dans le royaume des cieux, voyant la gloire de Dieu. Pour celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même, 1 Jean 5, 10, 12. Et celui qui a le Fils a le Père, voir le Fils et le Père régner dans leur cœur l'union. Bien que ce petit livre assimile le silence à la prière, la Bible désigne le fait de s'asseoir dans un silence humble et d'écouter l'enseignement de Dieu comme attendre Dieu. Attendre Dieu, c'est persévérer à s'asseoir dans un silence humble, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. L'attente de Dieu est mentionnée dans toute la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Attendre Dieu est la voie par laquelle les membres de l'Église primitive réalisèrent les promesses du véritable Évangile, être libérés de l'esclavage du péché, entrer dans le royaume de Dieu et être en union avec le Christ et Dieu. Il y a de nombreuses Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui parlent du bénéfice de l'attente, que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, à proportion de notre attente et de notre espérance en toi. PS 33, 22 Attends l'Éternel, prends courage et que ton cœur s'affermisse, attends, je le dis, l'Éternel. Psa 27, 14 Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31 Heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à ma porte, attendant au poteau de mes portes. Car celui qui me trouve trouve la vie, et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Prov 8, 34, 35 Voici, c'est notre Dieu, nous avons attendu qu'il nous sauve. C'est l'Éternel, nous avons attendu qu'il nous sauve, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons de son salut. Isa 25, 9 En vérité, mon âme attend Dieu en silence, de lui vient mon salut. Psaume 62, 1 Attends, espère et attends-toi au Seigneur, prends courage et que ton cœur s'affermisse, attends, je le dis le Seigneur. Psa 27, 14 C'est pourquoi retourne vers ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et attends continuellement ton Dieu. Osée 12 Si l'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. L'âme 3, 25 Note, attendre c'est le chercher. Lire la Bible et participer aux offices de la secte, ce n'est pas chercher Dieu. Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont point entendu, n'ont point perçu de l'oreille, et l'œil n'a point vu de Dieu que toi, qui agisse en faveur de celui qui l'attend. Isa 64, 4 Paul cite l'Écriture ci-dessus dans 1 Corinthiens, « L'œil de l'homme n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni l'esprit imaginé, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Différence clé, chez Ésaïe, il est question d'attendre, dans 1 Cor 2, 9, d'aimer. Ainsi aimer Dieu, c'est l'attendre, nous l'attendons pour entendre ses paroles qui nous enseignent, nous convainquent, nous encouragent et nous guident, cela c'est aimer Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel hériteront la terre. Psaume 37, 9 À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9, 28 Attendre avec persévérance et patience, c'est voir Jésus t'apporter ton salut. Ce que tu entends, tu dois y prêter attention et y obéir pour obtenir le salut. Ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui lui prêtent attention et lui obéissent, Hébreux 5, 9. C'est par la grâce que tu es enseigné et transformé afin de devenir pur. Tite 2, 11, 14 Attendre Dieu donne accès à la puissance de l'Esprit qui détruira la nature pécheresse en nous, par notre obéissance à la croix intérieure du renoncement à soi. Attendre Dieu, c'est la manière de répondre à Jésus nous disant « Venez à moi », phrase répétée à de nombreuses reprises dans les Écritures. Cliquez pour les voir toutes. Ci-dessous, en voici plusieurs, car quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et descendu profondément et a posé les fondations sur le roc. et lorsqu'une inondation survint, le torrent se jeta contre cette maison et ne put l'ébranler ni la déplacer, parce qu'elle avait été solidement bâtie ou fondée sur un roc. Mais celui qui entend seulement et ne met pas en pratique mes paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sol, sans fondation. Le torrent se jeta contre elle, et aussitôt elle s'écroula, tomba, et la ruine de cette maison fut grande. Luc 6, 46-50 Venez à moi, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11-28-29 Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Luc 18-16 Nous devons aller à lui comme de petits-enfants dans la confiance avec humilité, avec la foi d'écouter en silence, et la foi d'obéir à ce que nous entendons. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18-14 Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés et accablés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11-28 Jésus répondit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi s'attache à moi, se confie en moi et s'appuie sur moi n'aura plus jamais soif à aucun moment. Jean 6-35 Tout ce que mon Père me donne, me confie, viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai certainement pas. Jean 6-37 Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et ne le fasse venir, et ne lui donne le désir de venir à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6-44 Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint là et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7-37 Jésus nous a dit que s'asseoir à ses pieds et entendre sa parole était 1. La bonne part, 2. La seule chose nécessaire, et 3. Ce qui ne serait pas enlevé. Il entra dans un certain village, et une femme nommément le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi s'assit aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Ormant était distraite par beaucoup de services, elle s'approcha donc de lui et dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse servir seule, dis-lui donc de m'aider. » Mais Jésus lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Luc 10-38-42 « Certainement il aime les peuples, tous tes saints sont dans ta main, et il s'assoit à tes pieds, chacun recevant tes paroles. » 2.33 3 La bonne part est la seule chose nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus et entendre sa parole ne sont pas enlevés. Le fait qu'elle s'assoie et écoute Dieu est une œuvre d'amour envers Dieu, et ses œuvres survivront au passage par le feu que chacun doit endurer. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jean 1.17, lui qui a goûté la mort pour tout homme, Hébreux 2.9. Jésus a rendu accessible à quiconque la grâce de Dieu qui purifie le cœur et l'âme, mais nous devons accéder à cette grâce puissante en allant à Dieu pour recevoir ses enseignements, ses convictions et l'enlèvement puissant du péché de nos cœurs. Nous accédons à la puissance de Dieu par la grâce en l'attendant. Le salut, c'est-à-dire être libéré de tout péché, vient à ceux qui l'attendent. Sans la puissance de Dieu agissant en toi, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe. Il y a 3 sources par lesquelles la puissance de Dieu est libérée pour te purifier. 1. La puissance dans la véritable espérance et le véritable évangile. 2. La puissance dans la croix intérieure du renoncement à soi. Et 3. La puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance de Dieu agit en nous et nous garde, par la foi, pour le salut, c'est-à-dire pour être délivré du péché. La chrétienté est sans la croix du Christ, sans la véritable espérance et donc sans la puissance de Dieu, n'ayant qu'une forme, coquille creuse du christianisme originel, sans la vie nouvelle de la nouvelle créature, sans sainteté, se vautrant dans le péché, se vantant de leur imperfection, périssant, dont la fin est la destruction. Car sans la puissance de Dieu libérée pour changer un homme, son cœur demeure plein de péché et inacceptable à Dieu, quoique ses lèvres puissent dire dans la forme du culte. La puissance de Dieu, la croix intérieure du renoncement à soi, commence par l'attente du Seigneur, avec l'espérance du véritable évangile, liberté du péché, entrée dans le royaume de Dieu pendant la vie sur terre, et union avec le Christ et Dieu. Nous devons saisir l'espérance du véritable évangile, que nous pouvons devenir libres du péché, entrer dans le royaume pendant notre vie sur terre, et parvenir à l'union avec Dieu et Christ. L'espérance nous motive ensuite à rechercher la grâce de Dieu qui purifie le cœur et l'âme, en l'attendant, en l'écoutant, en le guettant et en lui obéissant. Quand nous obéissons, nous avons fait sa volonté sur la terre comme au ciel, reniant notre volonté, c'est la croix intérieure du renoncement à soi. Nous sommes sauvés par l'espérance, car sans elle nous ne chercherions pas Dieu avec ferveur. De la parole du Seigneur au-dedans, l'espérance libère la puissance de Dieu pour te changer. Il n'y a d'espérance pour personne en dehors de la puissance de Dieu. C'est la grâce qui nous enseigne, nous met en demeure, puis ôte même de nous le désir de ce péché. Chaque enseignement, chaque commandement, ou chaque mise en lumière des péchés secrets de notre cœur est une révélation. À chaque révélation, notre foi augmente, et notre espérance augmente, nous motivant à passer encore plus de temps à attendre les commandements et les enseignements de Dieu. Nous faisons aussi l'expérience d'une délivrance graduelle et miraculeuse des péchés, validant nos efforts et nous motivant à persévérer jusqu'à la fin. Préface. Tandis que certains, entre les mains de qui ce petit traité peut tomber, le recevront peut-être comme un messager de bonne nouvelle, il y en aura sans doute d'autres qui ne se sentiront pas disposés à accorder beaucoup de crédit à la manière simple indiquée ici pour s'approcher de leur Créateur, qu'ils ne jugent pourtant pas selon l'apparence, mais mettant de côté tout raisonnement à ce sujet, dans l'humilité et la simplicité qu'ils en fassent l'essai et qu'ils éprouvent par eux-mêmes si ce qui est énoncé ici ne se révélera pas être plus qu'un rêve. Et s'ils le font avec sincérité de cœur, ils auront bientôt à reconnaître, pour leur grande consolation, qu'il s'agit en effet de vérités substantielles, efficaces et incontestables, et que c'est là le vrai moyen d'être purifié de nos nombreuses souillures, d'être instruit des mystères célestes, de goûter au vin du royaume et de participer à ce pain qui nourrit jusque dans la vie éternelle. 1. L'Esprit de Dieu habite dans le cœur de l'homme. Il est certain, d'après l'Écriture, que l'Esprit de Dieu habite en nous, qu'une manifestation de cet Esprit nous est donnée pour notre profit, et que c'est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est la grâce de Dieu qui apporte le salut et qui est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devrions vivre avec sobriété, justice et piété dans le présent siècle. Mais nous tenons trop peu compte de ce maître intérieur, qui est l'âme de notre âme, et par lequel seul nous sommes capables de former de bonnes pensées et de bons désirs. Dieu ne cesse de nous reprendre pour le mal et de nous influencer vers ce qui est bien, mais les bruits du monde extérieur, et ceux de nos propres passions au-dedans, nous assourdissent et nous empêchent de l'entendre. Nous devons nous retirer de tous les objets extérieurs et réduire au silence tous les désirs et toutes les imaginations vagabondes de l'esprit, afin que, dans ce silence profond de toute l'âme, nous puissions écouter l'ineffable voix du Maître divin. Nous devons écouter avec une oreille attentive, car c'est une voix douce et légère. Elle peut en effet être une voix formulée en paroles, comme lorsqu'un homme parle à son ami, et elle peut être une perception infusée, un savoir sans entendre de voix, ou une combinaison des deux, le tout par les opérations et influences secrètes de l'Esprit divin, nous insinuant l'obéissance, la patience, la douceur, l'humilité, et toutes les autres vertus chrétiennes, dans un langage parfaitement intelligible pour l'âme attentive. De plus, il te dira des choses à son sujet et te donnera des paroles d'encouragement. Mais ses commandements ne seront jamais incomplets, ni vagues, venant du Christ. Les commandements sont toujours clairs, doux, directs, non sarcastiques ni humoristiques, concis, parfaits. Tout ce qui est moindre vient de l'autre camp. Le Christ ne nous demande jamais de combler des blancs avec une phrase incomplète. Ses commandements seront toujours complets, il nous donne aussi des visions. Comme toutes ses compréhensions, celles qui viennent de lui seront immédiatement et parfaitement claires dans leur sens. Il n'y aura pas besoin d'interpréter ni de deviner, rejette donc immédiatement toute chose qui ne soit pas parfaitement claire. Sois patient, très, très patient, tu finiras par entendre. Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ces coups sont les avertissements de son esprit, ils nous touchent et agissent en nous. Et prêter attention à ces avertissements et les suivre, c'est lui ouvrir. » Il parle aux pécheurs impénitents, mais ceux-ci, absorbés dans la poursuite avide des plaisirs du monde et dans la satisfaction de leurs mauvaises passions, ne sont pas capables de l'entendre. Sa parole chez eux passe pour une fable, mais malheur à ceux qui reçoivent leur consolation dans cette vie, le temps viendra où leurs joies vaines seront confondues. Il parle aux pécheurs qui sont sur le chemin de la conversion, ceux-ci sentent les remords de leur conscience, et ces remords sont la voix de l'esprit, qui les reprend intérieurement à cause de leurs vices. Quand ils sont véritablement touchés, ils n'ont aucune difficulté à comprendre la voie secrète, car c'est elle qui les transperce jusqu'au vif. C'est cette épée à deux tranchants au-dedans d'eux, dont Paul parle, qui va jusqu'à séparer l'âme d'elle-même. La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il parle à des personnes éclairées, instruites, dont la vie, extérieurement régulière, semble ornée de nombreuses vertus. Mais souvent ces personnes, pleines d'elles-mêmes et de leur savoir, s'écoutent trop elles-mêmes pour écouter ces enseignements. Dieu, qui ne cherche qu'à se communiquer, ne trouve pas, pour ainsi dire, de place où s'introduire dans ces âmes si pleines d'elles-mêmes et si rassasiées de leur propre sagesse et de leurs vertus. Il cache ses secrets aux sages et aux prudents, et les révèle aux humbles et aux simples. Jésus a dit, « Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » C'est avec les humbles et ceux qui ont un cœur d'enfant qu'il prend plaisir à demeurer et à leur dévoiler ses secrets ineffables. Ce sont eux qui sont plus particulièrement disposés à recevoir, dans une plus grande mesure, le don de la foi, car consentant à ce que l'orgueil de la raison soit abaissé jusqu'à la poussière, ils n'entravent pas l'entrée de son don par leurs vains arguments, mais ils croient avec simplicité et confiance. 2. Sur la foi, il y a deux sortes ou degrés de foi. Le premier est celui par lequel l'esprit donne son assentiment à la vérité d'une chose sur le témoignage d'un autre. Le second est d'une nature plus élevée, étant d'origine divine, et c'est un don du Saint-Esprit. Par le premier, nous croyons à l'existence de Dieu et aux vérités qu'il nous a révélées dans les Saintes Écritures. C'est un principe essentiel au commencement du chemin spirituel, car à celui qui vient à chercher Dieu doit croire qu'il est Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Et si nous mettons toute notre confiance en lui et nous efforçons en toute chose de lui obéir, nous serons en état de préparation pour recevoir cette foi véritable et vivante qui est le don de Dieu. C'est seulement par cette foi que nous serons rendus capables de vaincre tous nos ennemis spirituels et de comprendre clairement ces mystères qui sont incompréhensibles à la raison humaine, car la foi, étant née de Dieu, ne peut raisonner, la raison doit donc suivre et se soumettre à la foi, et non la précéder et la maîtriser. C'est par la foi que, étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et lorsque ce don précieux nous a été accordé, il produit en nous l'espérance, l'amour, la confiance, la joie et la sainteté du cœur. Nous serons alors capables de sentir une entière dépendance de la bonté, de la puissance, de la justice et de la miséricorde de Dieu, et une confiance en ses promesses, ainsi que d'éprouver et de comprendre plus pleinement les opérations de son esprit sur l'esprit. La foi est une condition essentielle pour accomplir correctement tous nos devoirs envers l'être suprême. En effet, sans elle, il nous est impossible de lui plaire, et nous ne serions jamais poussés à le chercher, ni à croire à l'influence de son Saint-Esprit sur nos âmes. C'est par la foi que nous sommes soutenus sur le chemin de la paix et rendus capables de persévérer au milieu des difficultés et des embûches que nous pouvons rencontrer. C'est par ce saint principe que nous supportons les douleurs de la sécheresse et le manque de consolation, sans défaillir, étant ainsi fortifiés pour endurer, comme voyant celui qui est invisible. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons parvenir à la pratique de la prière véritable, intérieure et spirituelle. 3. Sur la prière est un commerce de l'âme avec Dieu. Ce n'est pas une œuvre de la tête, mais du cœur, qui devrait toujours se poursuivre. C'est le moyen par lequel la vie et la nourriture sont transmises à l'âme, et le canal par lequel les dons et les grâces de l'esprit s'écoulent et sont communiqués. Toute aspiration secrète de l'âme vers Dieu est prière. Tous, par conséquent, sont capables de prier et y sont appelés, comme tous sont capables d'être sauvés et y sont appelés. Paul nous a enjoint de prier sans cesse, et Jésus a dit : Je vous dis à tous, veillez et priez. Venez donc, vous tous qui avez soif, à ces eaux vives, ne perdez pas vos moments précieux à tailler des citernes qui ne retiennent pas l'eau, venez, âmes affamées qui ne trouvez rien autour de vous à manger, venez, et vous serez pleinement rassasiés. Venez, pauvres affligés qui gémissez sous votre fardeau de misère et de douleur, et vous trouverez soulagement et consolation. Venez, malades, à votre médecin, et ne craignez pas de vous approcher de lui parce que vous êtes remplis de maladies, exposez-les à sa vue et elles seront guéries. Enfants, approchez-vous de votre Père, et il vous embrassera dans les bras de son amour. Venez, pauvres brebis égarées, errantes, revenez à votre berger. Venez, vous qui avez cherché le bonheur dans les plaisirs et les poursuites du monde, mais n'avez pas trouvé la satisfaction que vous attendiez, venez et apprenez comment être vraiment heureux ici et éternellement heureux dans l'au-delà. Venez, pécheurs, à votre Sauveur. Venez, vous qui êtes lourds, ignorants et sans instruction, vous qui vous croyez les plus incapables de prier, vous êtes plus particulièrement appelés à la prière et plus aptes à elle. Que tous, sans exception, viennent, car le Christ a appelé tous. Vous devez toutefois apprendre une forme de prière qui peut être exercée en tout temps, qui n'entrave pas les occupations extérieures, et qui peut être pratiquée également par tous les rangs et toutes les conditions des hommes, par les pauvres comme par les riches, par les ignorants comme par les savants. Ce ne peut donc pas être une prière de la tête, mais du cœur. C'est une forme de prière que rien ne peut interrompre, sinon des affections irrégulières et désordonnées. Et quand bien même vous vous croiriez aussi lourd et aussi incapable d'atteinte sublime que possible, pourtant, par la prière, la possession et la jouissance de Dieu s'obtiennent aisément, car il désire plus se donner à nous que nous ne pouvons désirer le recevoir. La prière est le guide vers la perfection et le souverain bien, elle nous délivre de tout vice et nous obtient toute vertu, car le grand moyen de devenir parfaite est de marcher en présence de la pureté infinie. Lui-même a dit « Marche en ma présence et sois parfait ». Ce n'est que par la prière que nous sommes amenés dans sa présence et maintenus en elle, et lorsqu'une fois nous l'aurons pleinement connue, ainsi que la douceur de son amour, nous trouverons impossible de goûter quoi que ce soit autant que lui. 4. Tous sont capables de parvenir à la prière intérieure et spirituelle si tous étaient soucieux de poursuivre le chemin spirituel. Les bergers, tandis qu'ils veillent sur leurs troupeaux, pourraient avoir l'esprit des chrétiens primitifs, et le laboureur à la charrue maintenir une bienheureuse communion avec son Créateur. L'artisan, tandis qu'il épuise l'homme extérieur par le travail, serait renouvelé en force intérieure. Toute espèce de vice disparaîtrait bientôt, et toute l'humanité deviendrait de véritables disciples du bon berger. Oh, quand une fois le cœur est gagné, comme tout le mal moral se corrige aisément, c'est pour cette raison que Dieu, par-dessus tout, demande le cœur. La conquête du cœur seul peut extirper ces vices effroyables qui dominent tant parmi les hommes, tels que l'ivrognerie, le blasphème, la débauche, l'envie et le vol. Le Christ deviendrait le souverain universel et pacifique, et les cœurs de toute l'humanité seraient entièrement renouvelés. Le déclin de la piété intérieure est incontestablement la source des diverses erreurs qui se sont élevées dans le monde. Toutes seraient promptement sapées et renversées si la religion intérieure venait à s'établir. Oh, combien la perte subie par l'humanité, du fait de la négligence de l'intérieur, est indiciblement grande. Certains s'excusent en disant que c'est une voie dangereuse, invoquant l'incapacité des gens simples à comprendre les choses spirituelles. Mais Ésaïe a dit, « Ceux qui cheminent sur cette voie, fussent-ils des insensés, ne s'y égareront point. » Et où serait le danger de marcher dans la seule voie véritable, qui est le Christ, de nous abandonner à lui, fixant continuellement notre regard sur lui, plaçant toute notre confiance dans sa grâce, et nous tournant de toute la force de notre âme vers son amour pur. Les simples, loin d'être incapables de cette perfection, sont, par leur docilité, leur innocence et leur humilité, particulièrement aptes et qualifiés pour y parvenir, et comme ils ne sont pas habitués à raisonner, ils sont moins occupés de spéculation, moins attachés à leurs propres opinions. Même par leur manque d'instruction, ils se soumettent plus librement aux enseignements de l'Esprit divin, tandis que d'autres, aveuglés par la suffisance et asservis par les préjugés, résistent fortement aux opérations de la grâce. Nous lisons dans l'Écriture qu'il donne l'intelligence aux simples, et nous sommes aussi assurés qu'il prend soin d'eux, l'Éternel garde les simples. Christ a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Commentaire de l'éditeur du site, « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme un petit-enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Notez-le. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu à moins d'avoir crucifié vos convoitises et vos affections sur la croix intérieure du renoncement à soi. Vous devez être rétabli dans l'innocence d'un petit enfant. Vous devez être purifié pour devenir aussi innocent que le jour de votre naissance. Sinon, vous serez exclu du ciel. Et cela ne peut se faire que par la grâce de la puissance transformatrice de Dieu, qui purifie les désirs et l'orgueil de votre cœur par la foi, vous rendant apte à la compagnie du ciel. Les émotions simples, et sans art de l'amour filial, sont infiniment plus expressives que le langage le plus travaillé. L'Esprit de Dieu n'a besoin d'aucune de nos dispositions ni de nos méthodes. Quand il lui plaît, il fait des bergers des prophètes, et loin d'exclure quelqu'un du temple de la prière, il en ouvre tout grand les portes, afin que tous puissent entrer, tandis que la sagesse crie, « Qui est simple qu'il entre ici ?» Quant à celui qui manque d'intelligence, elle lui dit, « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. » Cherchez Dieu dans son cœur, pensez à lui, revenir à lui chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de lui, et faire et souffrir toute chose avec ce seul but de lui plaire, est le procédé naturel et prompt. C'est conduire l'âme à la source même de la grâce, où se trouve tout ce qui est nécessaire à la sanctification. Si tous se mettaient d'un seul coup dans cette voie, afin que le royaume du Christ fût établi dans leur cœur, car comme c'est le cœur seul qui peut s'opposer à sa souveraineté, c'est par la soumission du cœur que sa souveraineté est le plus hautement exaltée. Et puisque nul ne peut atteindre cet état bienheureux, excepté ce que Dieu lui-même y conduit et y place, nous ne prétendons y introduire personne, mais seulement indiquer le chemin le plus court et le plus sûr qui y mène, vous suppliant de ne pas être retardé dans votre progrès par des exercices extérieurs quelconques, de ne pas vous reposer dans l'ombre au lieu de la substance. Si l'eau de la vie éternelle est montrée à quelques âmes assoiffées, combien il serait indiciblement cruel de les enfermer dans un cycle de formes extérieures pour les empêcher de s'en approcher, de sorte que leurs désirs ne soient jamais satisfaits, mais qu'elles périssent de soif. Ô hommes aveugles et insensés, qui vous glorifiez de science, de sagesse, d'esprit et de puissance, comme vous vérifiez bien ce que Dieu a dit, que ses secrets sont cachés aux sages et aux prudents, et révélés aux petits et aux enfants. 5. Sur le fait de parvenir à la vraie prière, le genre de prière auquel nous avons fait allusion est celui du silence intérieur, où l'âme, dégagée de toutes les choses extérieures, dans une sainte quiétude, une humble révérence et une foi vive, attend patiemment de sentir la présence divine, et dans une foi vive, attend patiemment de recevoir la précieuse influence du Saint-Esprit. Et lorsque vous vous retirez à cette fin, ce qui devrait être votre pratique fréquente, vous devez vous considérer comme placé en la présence divine, le regard fixé sur lui d'un œil simple, vous abandonnant entièrement entre ses mains, pour recevoir de lui tout ce qu'il lui plaira de vous dispenser, vous efforçant calmement en même temps de fixer vos esprits dans la paix et le silence, renonçant à tous vos propres raisonnements, et ne voulant penser à rien, quelque bon et quelque profitable que cela puisse toutefois paraître. Et si quelque pensée vaine se présente, vous devez vous en détourner doucement, et ainsi attendre fidèlement et patiemment de sentir la présence divine. Si pendant que vous êtes ainsi occupé, quelque chose de la quiétude intérieure, ou un certain degré de la douce influence de l'Esprit divin, vous est miséricordieusement accordé, vous devez priser ces manifestations de la présence de Dieu dans vos âmes, et y être attentif avec soin et révérence, prenant garde toutefois de ne pas chercher à les augmenter par votre activité, car ce faisant, vous détournerez l'esprit de cet état de sainte quiétude et d'humble vigilance que vous devez vous efforcer autant que possible de maintenir en acte. Un vif sentiment de cette présence nous dégagera promptement d'innombrables divagations de l'esprit, nous éloignera beaucoup des objets extérieurs et nous rapprochera de cette puissance toute-puissante qui se trouve dans notre centre le plus intime, qui est le temple dans lequel il demeure. Et lorsque nous sommes ainsi pleinement tournés vers l'intérieur et vivement pénétrés du sentiment de sa présence, nous devons, dans la quiétude et le repos, avec révérence, confiance et amour, attendre que la nourriture bénie dont nous avons goûté s'enfonce profondément dans l'âme. La prière du silence intérieur est le chemin le plus facile et le plus profitable, parce que, par un simple regard, ou une simple attention à Dieu, l'âme devient comme un humble suppliant devant son Seigneur, ou comme un enfant qui se jette dans le sein sûr de sa mère. Elle est aussi la plus sûre, parce qu'elle est abstraite des opérations de l'imagination, laquelle est souvent séduite par des extravagances, et se laisse aisément égarer et tromper, l'âme se trouvant ainsi privée de sa paix. Au début, il sera difficile, à cause de l'habitude que l'esprit aura contractée d'être toujours au dehors, errant çà et là, et de sujet en sujet, de le retenir et de le délivrer de ces divagations qui sont un obstacle à la prière. En effet, ces errances de l'imagination, auxquelles les débutants sont quelque temps éprouvés, sont permis afin d'éprouver leur foi, d'exercer leur patience, et de leur montrer combien ils peuvent faire de même, ainsi que de leur apprendre à ne dépendre que d'une puissance toute-puissante pour avoir la force de surmonter toutes leurs difficultés. Car par sa propre force aucun homme ne prévaudra, et s'ils mettent toute leur espérance en lui, et persévèrent fidèlement, tout obstacle sera graduellement ôté, et ils trouveront qu'ils seront rendus capables. Ils sauront que c'est là la véritable manière de trouver Dieu, et sentiront son nom comme un parfum répandu. Et bien que nous devions en tout temps être très vigilants et diligents à rappeler nos pensées errantes, à les retenir autant qu'il se peut dans une juste soumission, pourtant un affrontement direct tel qu'elle ne sert qu'à les augmenter et à les irriter, tandis qu'en nous rappelant que nous sommes en la présence divine, et en nous efforçant de nous enfoncer sous le sentiment et la perception de cette présence, en nous tournant simplement vers l'intérieur, nous leur livrons insensiblement une guerre très avantageuse, quoique indirecte. Ceux qui n'ont pas appris à lire ne sont pas, pour cela, exclus de la prière, car le grand maître qui enseigne toutes choses est le Christ lui-même. Qu'ils apprennent cette règle fondamentale, que le royaume de Dieu est en eux, et que c'est seulement là qu'il doit être cherché. Le royaume de Dieu est au-dedans et ne vient pas avec des signes extérieurs, a dit le bienheureux Jésus. Abandonnez donc les soucis et les plaisirs de ce monde et tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur, et l'âme trouvera le repos. Si nous retirons notre attention des choses extérieures, et la maintenons fixée sur le Maître intérieur, nous efforçant de lui obéir en tout ce qu'il peut exiger de nous, nous percevrons bientôt la venue du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est cette paix et joie dans le Saint-Esprit, qui ne peuvent être reçus par les hommes sensuels et mondains. C'est faute de retraite intérieure et de prière que nos vies sont si imparfaites, et que nous ne sommes ni pénétrés ni réchauffés par la lumière divine de la vérité, le Christ la lumière. Nous devons donc en faire une pratique quotidienne, et il n'est personne si occupé qu'il ne puisse trouver du temps pour une retraite intérieure. Moins nous pratiquons la prière silencieuse, moins nous en avons le désir, car nos esprits, étant fixés sur les choses extérieures, contractent à la fin une telle habitude qu'il est très difficile de les tourner vers l'intérieur. Ce qui suit est un extrait des directives de l'éditeur du site pour comment recevoir la puissance transformatrice de Dieu, intercalée pour clarification et meilleure compréhension. Il est probablement préférable de choisir un moment tôt le matin, quand tout est calme, avant que les activités de la journée ne tourbillonnent dans votre tête. Levez-vous une heure plus tôt qu'auparavant, utilisez les week-ends pour une recherche intense, et faites des jours fériés des jours saints, en passant toute la journée, ou autant que possible, dans l'attente silencieuse du Seigneur. Si vous êtes occupé, fixer une heure le soir sera trop souvent manqué à cause de conflits liés aux exigences de votre journée ou parce que vous êtes trop fatigué. Certains peuvent attendre Dieu régulièrement la nuit, ma femme est ainsi et peut attendre plusieurs heures la nuit. Quel que soit le moment que vous choisissez, assurez-vous d'écouter chaque jour. il vaut mieux attendre assis sur une chaise sans appui-tête. En vous tenant bien droit, vous avez moins de risques de vous endormir, bien que cela reste possible, et il peut plus facilement vous réveiller, car tout sommeil dans lequel vous tomberez ne sera pas aussi profond que si vous étiez allongé dans un lit. Si vous essayez de vous asseoir dans le lit, calé sur des oreillers, il est beaucoup trop facile de vous affaisser ou de simplement vous retourner pour vous retrouver en position allongée. Il y a plusieurs choses que j'ai apprises et qui aident à calmer l'esprit, afin que vous puissiez entendre plus facilement. Si votre chaise a des accoudoirs, posez vos coudes sur les accoudoirs, joignez les mains comme pour prier, et laissez-les toucher légèrement votre bouche, votre menton ou votre nez. Inclinez la tête. Non seulement écoutez, mais observez et observez la lumière sur vos paupières fermées, ou si vous attendez les yeux ouverts, restez concentré sur un objet immobile dans votre champ de vision. Si vos yeux sont fermés, déplacez votre regard vers le haut à droite. Continuez d'observer ce qui se trouve dans votre champ de vision, si peu que ce soit, et cela maintiendra votre esprit immobile. Je force ma respiration à être très lente et longue, lentement et profondément à l'inspiration, lentement et complètement à l'expiration. Francis Raugil et Isaac Pennington ont souvent fait référence à respirer après le Seigneur et à respirer vers le Seigneur dans leurs écrits. Ils parlent aussi de l'Esprit soufflant la vie dans ceux qui attendent Dieu, un peu comme le premier Adam fut fait âme vivante par Dieu soufflant en lui. Le Seigneur m'a récemment appris que, tout en inspirant lentement et profondément, je dois me concentrer sur la sensation du haut à droite de ma tête, et tout en expirant lentement, je dois me concentrer sur la recherche de lumière en haut à droite de ma tête. Il m'a aussi appris à rejeter les pensées que le diable jette au hasard pour faire vagabonder votre esprit, rejeter les pensées avant d'être perdu dans la pensée est difficile, mais cela devient plus facile avec la pratique. Fermer la bouche et respirer par le nez tant qu'il est dégagé, respirer par la bouche facilite la venue des pensées charnelles. C'est le Seigneur qui me l'a enseigné. Cela est vrai lorsqu'on attend ou dans les activités normales. La bouche fermée, maintenir légèrement les dents du haut et du bas en contact aide encore davantage à ralentir les pensées. Forcez-vous à sourire et maintenez le sourire. Sourire chassera les soucis, qui constituent 90% des pensées. Un sourire libère des endorphines et de la sérotonine, ce qui facilite la détente et l'abandon des pensées. Lorsque vous vous trouvez entraîné dans un flot de soucis, ou bloqué à repasser l'horreur de vos péchés passés, après avoir déjà confessé votre regret à leur sujet, un sourire forcé brisera ces schémas de pensée, vous permettant de recentrer votre esprit sur l'attente, l'observation et l'écoute, dans l'espoir que le Seigneur parle. Le simple fait de rouler les yeux vers l'arrière de la tête, de déplacer votre regard complètement à droite et d'observer la lumière sur vos paupières peut aussi arrêter les pensées lorsqu'elles tourbillonnent. Quand vous tourbillonnez dans les pensées, essayez-le. Cela pourrait fonctionner pour vous, mais il n'y a pas une seule méthode. Asseyez-vous simplement tranquillement du mieux que vous pouvez. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Lorsque vous vous trouvez entraîné dans un tourbillon de pensées, revenez simplement à la pensée de son nom, ce sera une manière de vous rappeler votre but. Vous finirez par remarquer que vous avez une pensée, puis que vous formez les mots pour l'exprimer dans votre esprit. Votre pensée a déjà été entendue, vous gaspillez des efforts à essayer de l'exprimer. Restez simplement silencieux, sans former de mots pour exprimer les sentiments ou pensées qui surgissent, et vous aurez fait un grand pas. Essayez de ne pas former de mots dans votre esprit, même si votre pensée est mauvaise, laissez-la simplement être. Commencez par penser au nom de Jésus, puis devenez silencieux. À mesure que vous progressez et devenez plus conscient du Christ en vous, vous pouvez passer au fait de penser au Christ au-dedans de vous, selon George Fox. D'après la parole du Seigneur au-dedans, chaque fois que tu reviens tes pensées à moi, le Père le sait. Quand vous vous surprenez à être emporté dans un tourbillon de pensées, revenez à penser au nom de Jésus, puis redevenez silencieux. Ne répétez pas son nom encore et encore comme un mantra. Rappelez-vous simplement le nom, puis redevenez silencieux du mieux que vous pouvez. Ne vous découragez pas si vous trouvez difficile d'apaiser l'esprit, tout le monde y arrive difficilement. Vos efforts sont remarqués et appréciés, ils seront finalement récompensés par la grâce du Seigneur pour vous aider à apaiser l'esprit. Souvenez-vous, même votre attente est à votre crédit, que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, en proportion de notre attente et de notre espérance en toi. Psaume 33, 22. Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu, ni perçu par l'oreille, ni l'œil n'a vu un Dieu en dehors de toi, qui agisse pour celui qui l'attend. Ésaïe 64, 4. Un problème courant est que votre esprit s'imagine prêcher aux autres, citant des Écritures pour appuyer la prédication. Certains pensent même que cela est inspiré par Dieu, mais ce n'est que votre esprit charnel qui juge les autres et gaspille votre temps d'attente. aussi bon que cela puisse paraître, aussi juste que cela vous fasse vous sentir, arrêtez-le, et devenez silencieux du mieux que vous pouvez, ne gaspillez pas votre temps d'écoute et d'observation. La voix viendra avant la lumière. Mais vous pouvez avoir des visions, comme de petits rêves, avec des compréhensions immédiates. Cela aussi est l'œuvre de la lumière au-dedans de vous. Ce que vous entendez ne s'accorde pas toujours avec l'écriture. Vous l'entendrez vous dire des choses sur vous-même. Vous entendrez des compliments. Vous entendrez des convictions. Mais quoi que vous entendiez, cela ne contredira jamais l'écriture. Vous pouvez entendre de quatre manières, une pensée sans voix ou sans vision. Mais la pensée n'est manifestement pas la vôtre parce qu'elle n'a aucun fil conducteur que l'on puisse remonter. La pensée est aussi immédiatement comprise. Une pensée accompagnée d'une voix, mais pas une voix physique, plutôt comme un ton et une qualité de la pensée exprimée, comme le souvenir d'avoir entendu quelqu'un parler avec des inflexions, un ton, une fréquence, etc. Une compréhension avec une vision, compréhension qui est immédiate et claire, aucune voix ne l'accompagne habituellement. Une compréhension qui ressemble à une immersion totale ou au fait d'être entouré par les mots non pas entendus, mais très puissants, et que vous pouvez vous-même exprimer facilement en mots. C'est rare et merveilleux. La voix viendra avant la lumière. Mais vous pouvez avoir des visions, comme de petits rêves, avec des compréhensions immédiates. Cela aussi est l'œuvre de la lumière au-dedans de vous. Ce que vous entendez ne s'accorde pas toujours avec l'écriture. Vous l'entendrez vous dire des choses sur vous-même. Vous entendrez des compliments. Vous entendrez des convictions. Mais quoi que vous entendiez, cela ne contredira jamais l'écriture. Vous pouvez entendre de quatre manières, une pensée sans voix ou sans vision. Mais la pensée n'est manifestement pas la vôtre parce qu'elle n'a aucun fil conducteur que l'on puisse remonter. La pensée est aussi immédiatement comprise. Une pensée accompagnée d'une voix, mais pas une voix physique, plutôt comme un ton et une qualité de la pensée exprimée, comme le souvenir d'avoir entendu quelqu'un parler avec des inflexions, un ton, une fréquence, etc. Une compréhension avec une vision, compréhension qui est immédiate et claire, aucune voix ne l'accompagne habituellement. Une compréhension qui ressemble à une immersion totale ou au fait d'être entouré par les mots non pas entendus, mais très puissants, et que vous pouvez vous-même exprimer facilement en mots, c'est rare et merveilleux. Ce qui suit illustre comment vos propres pensées peuvent être remontées, afin de prouver si une pensée est à vous ou si elle a été introduite depuis le domaine spirituel. Supposons que j'ai une pensée à propos de l'Italie. Maintenant, je commence à la remonter. La pensée précédente était la pizza, et avant cela, la nourriture préférée des hommes, et avant cela, la glace, et avant cela, la nourriture préférée des femmes, et avant cela, ce que ma femme et moi allions manger au souper, et avant cela, etc. À la fin de cette séquence, supposons que j'entende ou que j'ai une pensée, tes besoins seront pourvus, pourvu que tu restes sur le chemin. Puisque cela est totalement décalé par rapport à tout fil de pensée précédent, il est clair que cette pensée provient du domaine spirituel. C'est la voix du Seigneur parce qu'elle est paisible, facilement acceptée, douce, pleine d'espérance, miséricordieuse, compréhensible, c'est la sagesse d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, équitable, douce, facilement acceptée, pleine de miséricorde et de bons fruits, immédiatement comprise et sincère. Jacques 3, 17. Mais si vous entendiez, tu as un grave problème, cela vient d'en bas parce que cela n'identifie même pas le problème, donc ce n'est pas pur et, étant incomplet, ce n'est ni compréhensible ni facilement accepté. Il faut du temps, de la pratique et de la patience pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Ses paroles sont toujours aimables, douces, pacifiques, facilement acceptées, sans sarcasme, sans amertume, sans condamnation, sans dureté, pure, nette, humble, merveilleuse. Il n'y a jamais de mots émotionnels, il n'y a jamais d'émotion dans sa voix. Ses paroles sont simples, sans sarcasme, sans humour, facilement acceptées, toujours bienveillantes, fermes, toujours morales, ne contredisant jamais l'écriture, immédiatement comprise, factuelle, sage, facile à comprendre, ne reprochant jamais, et ne vous laissant jamais deviner leur sens. Les nombreuses voix de l'ennemi sont généralement émotionnelles, sarcastiques, incomplètes, condamnantes, dures, craintives et amères. L'ennemi utilise de nombreuses voix, la vôtre, celle d'amis, de parents, de dignitaires, etc. Vous finirez par entendre le Seigneur. Et une fois que vous commencerez à entendre, vous entendrez avec une fréquence croissante. Il a une voix douce. Parfois, vous n'entendrez pas de voix, vous saurez simplement quelque chose soudainement et immédiatement. George Fox appelait cela une « ouverture » « opening ». Une ouverture peut s'exprimer en mots, mais c'est un ressenti qui imprègne tout votre être, comme le sentiment d'être entouré ou immergé dans la compréhension immédiate. Il vous dira des choses à propos de lui-même, il vous encouragera, il est bonté. Il vous dira ou vous montrera des choses sur vous-même, certaines seront laides. Mais puisqu'il est votre ami, vous savez qu'il vous les montre pour votre bien, alors vous écoutez et vous observez, et vous ne fuyez pas, vous vous tenez devant le Fils de l'homme, et vous vous repentez de ce qu'il vous montre. Et parfois, il vous donne des commandements. Vous entendez la parole de Dieu, la parole vivante, et espérons-le, vous obéirez à ses commandements et lui montrerez que vous l'aimez par votre obéissance. Gardez un stylo et du papier près de vous lorsque vous attendez le Seigneur. Arrêtez-vous et écrivez ce que vous recevez. Tenez un carnet des commandements et des compréhensions reçues. Il nous a dit, « Pourquoi devrais-je vous enseigner si vous n'écrivez pas ce que je vous dis ?» Puis retournez immédiatement à la tente, relisez-les périodiquement et continuez à vous repentir. Vous commencerez à changer, pas aussi vite que vous le voudriez, mais vous changerez. Vous deviendrez plus patient, moins facilement irrité, plus aimable, plus posé, plus concentré dans la vie. Vos désirs pour les choses du monde commenceront à se dissoudre. À mesure que vous suivrez ces commandements, vos progrès s'accéléreront. Lorsque vous verrez vos changements, tout en restant conscient de la diminution de vos manquements, vous saurez avec gratitude qu'il vous transforme par grâce. Cela fonctionne, votre foi augmente, parce que vous entendez la parole de Dieu et parce que vous devenez plus sûr de ce que vous espérez et plus certain que le Christ opère des changements en vous, même si vous ne le voyez pas encore. Sur la base du conseil d'Edward Burroughs, cliquez pour lire. Un géant parmi les premiers Quakers, nous ne devrions rien faire pour le Seigneur sinon nous repentir, jusqu'à ce que nous puissions distinguer entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi. Et William Penn a écrit, « Bien que ce soit le devoir de tous de marcher dans la lumière et de l'attendre afin qu'ils soient instruits par elle dans le chemin de la vie et du salut, pourtant ce ne sont que ceux qui sont effectivement conduits astérisque par elle, la lumière, qui peuvent discerner. » Astérisque pour rappel, pour être guidé ou conduit par la lumière doit d'abord se lever dans votre cœur comme une étoile magnifique, de sorte qu'on vous montre tout ce qu'il faut faire et qu'on vous dit tout ce qu'il faut dire. L'apparition indubitable de la lumière vient de la foi dans la voix. Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le silence de toutes nos pensées et de tous nos désirs terrestres est absolument indispensable si nous voulons entendre la voix secrète de l'instructeur divin. L'ouïe est un sens formé pour recevoir les sons, et elle est plutôt passive qu'active, admettant, mais ne communiquant pas la sensation, et si nous voulons entendre, nous devons prêter l'oreille à cette fin. Ainsi le Christ, la parole éternelle, sans le parler divin intérieur duquel l'âme est morte, obscure et stérile, lorsqu'il veut parler au-dedans de nous, requiert l'attention la plus silencieuse à sa voix vivifiante et efficace. Nous devrions nous oublier nous-mêmes et tout intérêt personnel, et écouter et être attentifs à la voix intérieure. Le silence extérieur est très requis pour cultiver et développer le silence intérieur, et en vérité, il nous est impossible de devenir intérieur sans l'amour et la pratique du silence extérieur et du retrait. Et il est incontestable que le fait d'être ainsi occupés intérieurement est totalement incompatible avec le fait d'être affairés et employés aux nombreux riens qui nous entourent. Lorsque, par inadvertance ou infidélité, nous nous dissipons, ou pour ainsi dire, nous nous décentrons, il est d'une importance immédiate de nous tourner de nouveau doucement et paisiblement vers l'intérieur. Et ainsi nous pouvons apprendre à conserver l'esprit et l'onction de la prière tout au long de la journée. Car si la prière du silence intérieur était entièrement confinée à une heure fixée, nous n'en retirerions que peu de fruits. Il est de la plus grande importance que l'âme aille à la prière avec confiance, mais avec l'humilité d'un pécheur, et avec un amour si pur et désintéressé qu'il ne cherche rien du Père, sinon la capacité de lui plaire et de faire sa volonté. Car un enfant qui ne proportionne sa diligence qu'à son espérance de récompense se rend indigne de toute récompense. Allez donc à la prière, non afin de jouir de délices spirituels, mais afin d'être plein ou vide, selon qu'il plaît à Dieu. Cela vous conservera dans une égalité d'esprit, soit dans l'abandon, soit dans la consolation, et vous empêchera d'être surpris par la sécheresse ou par les apparents refus de celui qui n'est qu'amour. Efforcez-vous donc de ne pas laisser vos esprits s'en mêler trop aux choses extérieures, cherchant à être totalement résignés à la volonté divine, afin que Dieu fasse de vous et des vôtres selon son bon plaisir céleste, vous appuyant sur lui comme sur un Père bon et aimant. Et quoi que vous soyez pris par vos affaires extérieures, et que vos esprits soient ainsi empêchés d'être réellement fixés sur lui, même alors vous porterez toujours en vous un feu qui ne s'éteindra jamais, mais qui au contraire nourrira une prière secrète, qui sera. Un fils qui aime son père ne pense pas toujours distinctement à lui. Beaucoup d'objets détournent son esprit, mais ceci n'interrompt jamais l'amour filial. Chaque fois que son père revient dans ses pensées, il l'aime, et il sent, au plus intime de son cœur, qu'il n'a pas cessé un seul moment de l'aimer, bien qu'il ait cessé de penser à lui. C'est de cette manière que nous devons aimer notre Père céleste. C'est en venant sous l'influence de l'Esprit divin que nous sommes rendus capables d'appeler Dieu Père et que nous pouvons, en effet, devenir ses fils. La vraie religion est une chose née du ciel, c'est une émanation de la vérité et de la bonté de Dieu sur l'esprit des hommes, par laquelle ils sont formés à sa ressemblance et à son image, et deviennent participants de la nature divine. un vrai chrétien, et à tous égards d'une extraction très noble, d'une lignée céleste et divine, étant né, comme Jean l'a exprimé, d'en haut. Et ailleurs il a dit, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. » Si des considérations telles que celles-ci ne suffisent pas à nous convaincre de la folie de notre attachement aux choses périssables, et à nous stimuler à rechercher celles qui nous obtiennent de si grands et glorieux privilèges, nous devons, en vérité, être tombés dans un état de profonde et déplorable insensibilité, dont même si quelqu'un devait ressusciter d'entre les morts à cette fin, il serait impossible de nous tirer. 6. Sur la sécheresse spirituelle, dès que nous nous serons livrés à servir le Seigneur de cette manière intérieure, il commencera à nous purifier et à éprouver notre foi, afin de nous attirer plus près de lui. Et pour cela, il nous conduira par les chemins de la sécheresse et de l'abandon, de sorte que, lorsque nous nous efforcerons de fixer nos esprits dans le silence afin de tâter notre Dieu, nous ne ferons pas l'expérience du réconfort et du rafraîchissement que nous attendions, mais au contraire, nous serons plus que d'ordinaire assaillis par une multitude d'imaginations pénibles et importunes, au point que nous commencerons à penser que nous travaillons sans but, et que la prière du silence intérieur est un état auquel nous n'avons pas besoin d'aspirer. Mais cet état de sécheresse est très profitable s'il est supporté avec patience. Le Seigneur se sert du voile de la sécheresse, afin que nous ne sachions pas ce qu'il opère en nous, et que nous soyons ainsi humbles, car si nous sentions et savions ce qu'il opère dans nos âmes, la satisfaction et la présomption s'y glisseraient, nous imaginerions faire quelques bonnes choses, et cette complaisance en soi empêcherait notre avancement spirituel. Et par la prière de la quiétude mentale, nous pouvons nous sentir dans un état sec et sans consolation, sans pouvoir nous défaire de nos pensées importunes, ni éprouver aucune lumière, consolation ou sentiment spirituel. Pourtant, ne nous affligeons pas et ne renonçons pas à notre entreprise, mais résignons-nous alors avec vigueur, et persévérons patiemment de cette manière, nos âmes seront intérieurement améliorées. Nous ne devons pas croire que, lorsque nous sortons de la prière de la même manière que nous y sommes entrés, sans nous sentir en avoir tiré profit, nous avons peiné en vain. La vraie prière consiste, non à jouir de la lumière et à avoir la connaissance des choses spirituelles, mais à endurer avec patience et à persévérer dans la foi et le silence, croyant que nous sommes en la présence du Seigneur et tournant vers lui nos cœurs avec tranquillité et simplicité d'esprit. Nous devons savoir que la nature est toujours ennemie de l'esprit et que, lorsqu'elle est privée de plaisirs sensibles, elle demeure faible, mélancolique et pleine d'ennui. Ainsi, à cause de l'inquiétude des pensées, de la lassitude du corps, du sommeil importun, et de notre incapacité à réfréner les sens, dont chacun suivrait son propre plaisir, nous sentirons souvent de l'impatience à nous mêler de nouveau aux affaires du temps. Heureux sommes-nous si nous pouvons persévérer au milieu de cette expérience de désert. Souvenez-vous que, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils prendront leur vol comme les aigles, ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. La prière du silence intérieur peut être bien figurée par la lutte dont l'Écriture dit que le patriarche Jacob eut toute la nuit avec Dieu jusqu'à ce que le jour se lève et qu'il le bénisse. C'est pourquoi l'âme doit persévérer et lutter contre les difficultés qu'elle rencontrera dans la prière intérieure, sans cesser, jusqu'à ce que le soleil de la lumière intérieure commence à paraître et que le Seigneur lui donne sa bénédiction. Les plus grands progrès de l'éditeur ont été 3 sessions consécutives toute la nuit, avec beaucoup de café pendant une période de 4 jours de congé de Thanksgiving. Si vous allez à la prière avec l'esprit et l'intention de prier, tant que vous ne retirez pas cette intention, alors, bien que par misère et fragilité, vos pensées puissent vagabonder, vous verrez en temps voulu la puissance toute-puissante vous aider à surmonter vos affections et vos convoitises permises. Ne vous défiez donc pas de lui, mais seulement de vous-même, et souvenez-vous que, comme l'a dit l'apôtre, il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ses consolations sont parfois retirées, mais ses miséricordes durent à jamais. Ayez donc bon courage, et bien qu'il vous semble que vous peinez sans gagner grand avantage, souvenez-vous que nous devons labourer et semer avant de pouvoir récolter, et si vous persévérez dans la foi et la patience, vous moissonnerez une récompense abondante pour tous vos travaux. Seriez-vous assez déraisonnable pour vous attendre à trouver sans chercher ? Ou à ce qu'on vous ouvre sans prendre la peine de frapper, autant le laboureur pourrait s'attendre à voir ses champs ondulés de grains, sans s'être donné la peine de mettre la semence en terre. Il n'est pas difficile de s'attacher à Dieu, tant que vous jouissez de ses consolations et de ses réconforts. Mais si vous voulez prouver votre fidélité envers lui, vous devez être disposé à le suivre à travers les chemins de la sécheresse et de l'abandon. La fidélité d'un ami n'est pas connue tant qu'il reçoit des faveurs et des bienfaits. Mais s'il nous reste fidèle lorsque nous le traitons avec froideur et négligence, ce sera la preuve de la sincérité de son attachement. Bien que la bonté toute-puissante n'ait d'autre désir que de se communiquer à ceux qui l'aiment et le cherchent, pourtant il se cache fréquemment à nous, afin que nous soyons tirés de la paresse et amenés à le chercher avec fidélité et amour. Mais avec quelle bonté abondante récompense-t-il notre fidélité? Et combien doucement ces retraits apparents de lui-même sont-ils suivis par les consolations de son amour? David a dit, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri. Il m'a fait remonter d'une fosse horrible, d'un bourbier, il a posé mes pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, des louanges à notre Dieu. Dans les temps où sa présence se retire, nous sommes portés à croire que ce serait une preuve de notre fidélité, et que cela se manifesterait par l'ardeur de notre amour, que de le chercher par un effort de notre propre force et de notre activité, et que cet effort le pousserait à revenir plus promptement. Mais ce n'est pas la bonne conduite quand nous sommes dans cet état, avec une résignation patiente, avec affection et avec un silence respectueux, nous devons attendre le retour de notre bien-aimé. Ainsi seulement nous démontrerons que nous ne cherchons rien d'autre que lui-même et son bon plaisir, et non les délices égoïstes de nos propres sensations. Il est très courant, lorsque nous sentons la douceur de la grâce de Dieu, de nous imaginer que nous l'aimons. Mais ce n'est que dans les retraits de sa présence que notre amour peut être éprouvé et que sa mesure peut être connue. C'est dans ces saisons que nous sommes convaincus de la faiblesse et de la misère de notre nature et de combien nous sommes incapables, par nous-mêmes, de penser ou de faire quoi que ce soit de bien. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils éprouvent des attendrissements du cœur, des larmes versées et d'autres délices sensibles, s'imaginent être les favoris du Tout-Puissant et qu'alors ils le possèdent véritablement, et ainsi ils passent toute leur vie à rechercher ces sensations agréables. Mais ils doivent être prudents, de peur de se tromper eux-mêmes, car ces consolations, lorsqu'elles procèdent de la nature et qu'elles sont occasionnées par leur propre réflexion ou par l'admiration de soi, les empêchent de discerner la vraie lumière ou de faire des pas vers la perfection. Vous devez donc être attentifs à distinguer ces attendrissements des affections d'avec les opérations qui procèdent purement de l'Esprit divin, vous laissant conduire par lui, qui sera votre lumière au milieu des ténèbres et de la sécheresse. Il n'est pas d'un mince avantage de souffrir patiemment le manque de consolation et le trouble et les importunités d'une imagination vagabonde, c'est une offrande et un sacrifice. Et autant de fois que vous vous exercerez à rejeter calmement vos pensées vaines et à supporter paisiblement votre état sombre et désolé, autant de couronnes le Seigneur posera sur vos têtes. Il est d'une grande importance que vous vous efforciez, en tout temps, de garder vos cœurs en paix, afin de garder pur ce temple de Dieu. La manière de le garder en paix est d'y entrer par le moyen du silence intérieur. Quand vous vous voyez plus vivement assailli, retirez-vous dans cette région de paix, et vous y trouverez une forteresse qui vous permettra de triompher de vos ennemis, visibles et invisibles, et de tous leurs pièges et tentations. Au-dedans de votre propre âme résidant l'aide divine et le secours souverain, retirez-vous en elle, et tout sera tranquille, sûr, paisible et calme. Ainsi, au moyen du silence mental, qui ne peut être atteint que par l'aide divine, vous pouvez chercher la tranquillité dans le tumulte, la solitude dans la compagnie, la lumière dans les ténèbres, l'oubli dans les pressions, la vigueur dans l'abattement, le courage dans la peur, la résistance dans la tentation, la paix dans la guerre, et le calme dans la tribulation. C'est sur les défauts et les infirmités si nous relâchons à ce point notre vigilance que nous errions de nouveau parmi les choses extérieures à la recherche du bonheur, ou que nous tombions dans la dissipation, ou que nous commettions une faute, nous devons aussitôt nous tourner vers l'intérieur. Car nous étant ainsi éloignés de notre Dieu, nous devons le plus tôt possible revenir à lui et souffrir patiemment quelles que soient les sensations qu'il lui plaira d'imprimer, car il a déclaré « Tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie ». Lorsqu'une faute a été commise, il est d'une grande importance de se garder de la contrariété et de l'inquiétude qui jaillissent d'une racine secrète d'orgueil et d'un amour de notre propre excellence. Nous sommes blessés de sentir ce que nous sommes, et si nous nous décourageons ou désespérons, nous nous affaiblissons davantage, et de nos réflexions sur la faute naît un chagrin, qui est souvent pire que la faute elle-même. L'âme vraiment humble n'est pas surprise de ses défauts ou de ses manquements, et plus elle se voit misérable et malheureuse, plus elle s'abandonne à Dieu et aspire à une alliance plus proche et plus intime avec lui, afin de se prévaloir d'une force éternelle. Nous devons d'autant plus être portés à agir ainsi que lui-même a dit « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre, je te guiderai de mon œil. » 8. Sur les tentations et les tribulations nous sommes parfois si bas, si orgueilleux et si ambitieux, et si remplis de nos propres appétits, de notre propre jugement et de nos opinions, que si les tentations et les tribulations n'étaient pas permises pour nous éprouver, nous humilier et nous purifier, nous n'arriverions jamais à un état d'acceptation. Le Seigneur, voyant notre misère et nos inclinations perverses, et étant ainsi ému de compassion, retire sa force de nous, afin que nous sentions notre propre faiblesse, nous laissant être assaillis par des suggestions violentes et douloureuses d'impatience et d'orgueil, et par diverses autres tentations, et certains, qui ont longtemps pratiqué le péché par la gourmandise, la luxure, la rage, les jurons, le désespoir, et une grande quantité d'autres assauts, afin qu'ils se connaissent eux-mêmes et soient humbles. Avec les tentations, la bonté infinie humilie notre orgueil en nous donnant, en cela, le remède le plus salutaire. Toute notre justice, comme l'a dit Ésaïe, est comme des haillons souillés, à cause de la vanité, de la présomption et de l'amour de soi dont elle est souillée. Il est donc nécessaire qu'elle soit purifiée par le feu de la tentation et de la tribulation, afin qu'elle soit nette, pure, parfaite et acceptable aux yeux de Dieu. Le Seigneur polit l'âme qu'il attire à lui avec la rude lime de la tentation, la délivrant ainsi de la rouille de nombreuses passions et propensions mauvaises. Par le moyen de la tentation et de la tribulation, il l'humilie, la soumet et l'exerce, lui montrant sa propre misère. C'est ainsi qu'il purifie et dépouille le cœur, afin que toutes ses opérations soient pures et d'une valeur inestimable. Combien vous seriez heureux si vous pouviez croire tranquillement que toutes les épreuves et tentations par lesquelles vous êtes assaillis sont permises pour votre gain et votre profit spirituel. Mais vous direz peut-être que, lorsque vous êtes importuné par d'autres, ou lésé et blessé par votre prochain, cela ne peut être pour votre avantage spirituel, puisque c'est l'effet de leurs fautes et de leurs malices. Ce n'est là qu'un artifice rusé et caché de l'ennemi, car bien que Dieu ne veuille pas le péché d'un autre, il veut pourtant ses propres effets en vous, et le trouble qui vous vient de la faute d'autrui doit vous améliorer en augmentant votre patience et en exerçant votre longanimité et votre charité. Considérez comment le Seigneur se sert des fautes des autres pour le bien de vos âmes. Oh, la grandeur de la sagesse divine, qui peut sonder la profondeur des moyens secrets et extraordinaires, et les voies cachées par lesquelles il guide l'âme qu'il désire purifier, transformer et honorer. Il est souvent la plus grande tentation d'être sans tentation, parce que nous sommes alors les plus susceptibles de tomber dans un état de tiédeur. C'est pourquoi nous ne devons pas nous plaindre lorsqu'elle nous assaille, mais, avec résignation, paix et constance, nous y fermer le cœur. Si nous voulons servir Dieu et parvenir à la région sublime de la paix intérieure, nous devons passer par ce rude chemin de la tentation et de la tribulation, et y être polis, purgés, renouvelés et purifiés. Une lutte et un combat direct contre les tentations ne font bien souvent que les augmenter et détournent l'âme de cette adhésion à Dieu, qui devrait toujours être sa principale occupation. S'y attacher et s'y maintenir. La méthode de victoire la plus sûre, et la plus sûre encore, consiste simplement à se détourner du mal et à se rapprocher davantage, plus intimement, notre refuge certain. Un petit enfant, en apercevant un monstre, n'attend pas pour le combattre et tourne à peine les yeux vers lui. Mais il se blottit vite dans le sein de sa mère, avec une entière confiance en sa sécurité. Ainsi de même, l'âme doit se détourner des dangers de la tentation pour se tourner vers son Dieu. Dieu est au milieu d'elle, disait le psalmiste, elle ne sera point ébranlée, Dieu la secourra et dès l'aurore. Le nom du Seigneur est une tour forte, où le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Si nous faisons autrement, et que dans notre faiblesse nous tentions d'attaquer nos ennemis, nous nous sentirons souvent blessés, sinon totalement vaincus. Mais en nous jetant dans la présence de Dieu et en nous appuyant sur lui seul, nous trouverons des forces pour nous soutenir. C'est ce secours que David cherchait. « Gémis, dit-il, le Seigneur toujours devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. » C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et ma gloire tressaille, ma chair aussi reposera dans l'espérance. Et il est dit dans l'Exode, « Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Quoique Dieu ne puisse être tenté par le mal, et qu'il ne tente lui-même personne, il est pourtant évident que les tentations sont permises pour notre bien et si elles sont supportées comme il faut, elles tendent à nous épurer. C'est pourquoi, regardez comme un sujet de joie complète le fait de tomber dans diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et dans toutes nos attaques, si douloureuses qu'elles nous paraissent, quelle qu'en soit la nature, nous devons nous souvenir qu'il est dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. » Vous ne pouvez être blessé ni par les hommes ni par les démons, si vous demeurez toujours près de Dieu, car qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes les imitateurs de ce qui est bien? Mais si vous êtes blessé, ce sont votre orgueil, vos passions et vos nombreuses tendances mauvaises non domptées, qui se dressent et vous nuisent, et tant que celles-ci subsistent, l'ennemi se servira de vous et cherchera à détourner vos esprits de l'adhésion à un conservateur pleinement suffisant. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et c'est donc votre état et le besoin où vous êtes d'être purifié au moyen de la tentation. Et soyez toujours sur vos gardes, de peur que l'ennemi infatigable n'ait accès à vos âmes par ses insinuations et ses attraits flatteurs, qu'il adaptera à votre situation et conditions présentes, car dans votre passage au travers de la vie, il y a bien des choses qu'il vous offrira comme tentation, s'efforçant de produire en vous une inclination et un désir désordonné pour elle, et si dans cet état de tentation vous y cédez, le danger. Si l'ennemi malveillant n'est pas résisté dès sa première attaque, il entre par des avances graduelles et s'empare entièrement du cœur, et tant que l'opposition est différée par une négligence habituelle, le pouvoir de résister diminue chaque jour et la force de l'adversaire augmente d'autant. Ainsi, lorsque vous sentez en vous un désir fort et ardent pour quoi que ce soit, et que vos inclinations vous entraînent trop précipitamment à le faire, efforcez-vous de vous modérer en vous retirant au-dedans et en recherchant la tranquillité de l'esprit. Pour bien faire toutes choses, nous devons les faire comme en la présence divine, sinon, nous quitterons bientôt notre juste centre et nous courons le danger d'être entièrement renversés, ô âme bienheureuse. Si tu voulais seulement te contenter, apaiser le feu de la tentation et de la tribulation, et te laisser pleinement éprouver et essayer, en endurant patiemment les assauts de l'ennemi et la privation du bien céleste, combien vite tu te trouverais riche en plaisir céleste. Combien vite la bonté divine établirait un riche trône dans ton âme et une demeure belle et bonne où tu pourrais te rafraîchir et trouver en toi-même la solitude. Sache que si le Seigneur peut, pour un temps, visiter, il ne fait pourtant sa demeure que dans les âmes paisibles et dans celles où le feu de la tentation et de la tribulation a consumé toutes les tendances corrompues. Le Seigneur ne repose pas n'importe où, mais là où règne la quiétude et où l'amour-propre est banni. Si du chaos son omnipotence a produit tant de merveilles dans la création du monde, que ne fera-t-il pas dans ton âme, créée à son image et à sa ressemblance, si tu demeures constant, tranquille et résigné, avec un vrai sentiment de ton propre néant? Ne rejetez donc pas votre assurance qui a une grande récompense, mais demeurez constant, ô âme bienheureuse. Demeure constante, car il n'en sera pas comme tu l'imaginais, et tu n'es jamais plus près de Dieu que dans ces temps d'abandon et d'épreuve de ta foi. Car bien que le soleil soit caché dans les nuages, il ne change pas de place et ne perd rien de son éclat. Le Seigneur te permet des tentations douloureuses et des abandons pour te polir, te purifier et te dépouiller de toi-même, afin que par ces épreuves, tu deviennes entièrement à lui et que tu te livres à le servir totalement. Oh, combien il y a purifié dans une âme qui doit parvenir à la sainte montagne de la perfection et de la transformation avec Dieu. Car tant qu'il demeure en nous quelques portions de mal, quelque chose du moi, nous devons être sujets à la tentation. Quand le moi est anéanti, il ne reste plus rien sur quoi le tentateur puisse agir. Oh, combien l'âme doit être résignée, nue, renoncée, anéantie, si elle ne veut pas empêcher l'entrée du Seigneur divin, et si elle veut une communion continuelle avec lui. 9. Sur le renoncement à soi-même, celui qui s'attend à parvenir à la perfection, ou à l'union de l'âme avec Dieu, par le moyen de la consolation ou du réconfort, se trouvera trompé. Car ayant péché, nous devons nous attendre à souffrir et en quelque mesure à être purifiés avant de pouvoir être, à quelque degré, rendus aptes à une union avec Dieu, ou admis à goûter la joie de sa présence. Soyez donc patients sous toutes les souffrances qu'il plaît au Père de mettre sur votre chemin. Si votre amour pour lui est pur, vous ne le chercherez pas moins dans la souffrance que dans la consolation. Ne soyez pas comme ceux qui se donnent à lui en une saison et se retirent la suivante. Ils ne se donnent que pour être caressés, et se reprennent eux-mêmes quand vient le temps d'être crucifiés, ou du moins se tournent vers le monde pour y chercher consolation. Non, vous ne trouverez de consolation en rien, sinon dans une libre et pleine remise à la volonté divine, qui ne goûte pas la croix, ne goûte pas les choses de Dieu, et un cœur qui goûte la croix trouve les choses les plus amères douces, pour l'âme affamée, toute chose amère et douce. Nous pouvons être assurés qu'il y a un progrès intérieur là où il y a un progrès dans la voie de la soumission à la croix. Dès que quelque chose se présente comme une souffrance et que vous sentez une répugnance contre elle, résignez-vous immédiatement à Dieu à son égard, en vous offrant à lui en sacrifice, et vous trouverez que, lorsque la croix viendra, elle ne sera pas si pesante, parce que vous vous serez disposé à l'accueillir volontiers. Jésus lui-même a voulu en subir les rigueurs extrêmes. Nous portons souvent la croix dans la faiblesse, d'autres fois dans la force, tout doit nous être égal dans la volonté de Dieu. Si quelque autre voie que le port de la croix et la mort à sa propre volonté avait pu racheter l'homme de son état déchu et corrompu, Jésus l'aurait enseigné et l'aurait établi par son exemple. Mais de tous ceux qui désirent le suivre, il a exigé le port de la croix, et sans exception, il a dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pourquoi donc craignez-vous de prendre la croix, qui vous conduira dans le chemin qui mène au royaume de Dieu ?» De la croix découlant la douceur céleste, la vraie fermeté, les joies de l'esprit, la victoire sur soi, la perfection de la sainteté. Il n'y a point de rédemption, point d'espérance de la continuation de la vie divine en nous, sinon par le fait de prendre la croix à nos appétits et inclinations charnelles, car tout consiste dans la mort du moi, et il n'y a pas de moyen d'obtenir la vie et la paix autrement qu'en mourant ainsi à la corruption. Pourquoi cherchez-vous quelque autre sentier vers la gloire que celui où vous êtes appelé à suivre le chef de votre salut? Sa vie fut une croix continuelle, et vous désirez une perpétuité de repos et de joie. Plus parfaitement vous mourrez à vous-même, plus véritablement vous commencerez à vivre pour Dieu, si vous voulez donc jouir ici d'une vraie paix, et obtenir ensuite la couronne de gloire qui ne se flétrit point, il est nécessaire qu'en tout lieu et en tous événements vous portiez la croix volontairement. Souffrir est donc votre part, et souffrir patiemment et volontairement est le grand témoignage de votre amour et de votre fidélité envers votre Seigneur. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans sa chair, armez-vous aussi de la même disposition, car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Par conséquent, il ne vit plus le reste de sa vie terrestre pour de mauvais désirs humains, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pie 4:1-2. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pie 2:21. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais la porte est étroite, resserrée par la pression, et le chemin est resserré et comprimé qui conduit à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7:14. La tribulation et la souffrance sont la pression, à mesure que vous approchez de la porte, la pression s'intensifie. Ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu que vous traversez, mais réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin d'être dans l'allégresse quand sa gloire sera révélée. 1 Pierre 4:12-13. Les mêmes souffrances sont éprouvées par tous vos frères dans le monde. 1 Pie 5:9. Car le Seigneur corrige et discipline tous ceux qu'il aime, et il châtie, voire il flagelle, tout fils qu'il accepte, accueille dans son cœur et chérit. Vous devez vous soumettre et endurer la correction pour la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que son père ne forme, ne corrige et ne discipline ainsi? Or si vous êtes exempt de correction, et laissé sans discipline à laquelle tous les enfants de Dieu participent, alors vous êtes des bâtards et non de véritables fils. Hébreux 12:6-8. L'endurance patiente de la croix, et la mort du moi sur elle, sont le devoir indispensable de l'homme déchu, et c'est ainsi seulement qu'il peut être délivré de ses ténèbres, de sa corruption et de sa misère, et être rétabli dans la possession de la vie, de la lumière et de la paix. Connaissant donc les excellences de l'amour du Père, n'ayant d'autre désir que de le rechercher ardemment, de demeurer toujours avec lui et de s'anéantir devant lui, nous devrions accepter indistinctement toutes ses dispensations, qu'elles soient obscurité ou illumination, fécondité ou stérilité, faiblesse ou force, douceur ou amertume, ou tentation, égarement, douleur, lassitude ou doute, et rien de tout cela ne doit retarder notre course. 10. Sur la mortification, tous les efforts qui tendent simplement à rectifier l'extérieur poussent l'âme encore davantage au dehors, vers ce à quoi elle s'emploie avec tant d'ardeur et de zèle, et ainsi ses forces se diffusent et se dissipent, car son application étant immédiatement dirigée vers les choses extérieures, elle fortifie par là même ces choses qu'elle vit à dompter. Cette espèce de mortification ne peut jamais dompter les passions ni diminuer leur activité. La seule méthode pour y parvenir est le silence intérieur, par lequel l'âme est tournée tout entière, pleinement et totalement, vers l'intérieur, afin de posséder un Dieu présent. Si elle dirige toute sa vigueur et son énergie vers ce centre de son être, le simple acte la sépare et la retire des sens, l'exercice de toutes ses puissances au-dedans laisse les sens faibles et impuissants, et plus elle se rapproche de Dieu, plus elle est séparée des sens, et moins les passions sont influencées par eux. Dans la mortification de l'œil et de l'oreille, qui fournissent continuellement à l'imagination affairée de nouveaux objets, il y a peu de danger de tomber dans l'excès, nous n'avons qu'à suivre où l'Esprit divin conduit. L'âme a un double avantage à procéder ainsi, car en se retirant des objets extérieurs, elle se rapproche de Dieu, et plus elle s'approche de lui, outre la force secrète de soutien et la vertu qu'elle reçoit, elle s'éloigne davantage du péché, de sorte qu'enfin, avoir l'esprit tourné au-dedans devient, pour ainsi dire, habituel. 11. Sur la résignation, nous devrions abandonner toute notre existence à Dieu, avec la conviction forte et positive que, tandis que nous nous efforçons fidèlement de le suivre, l'événement de chaque moment est conforme à sa volonté et à sa permission immédiate, et précisément tel que notre état l'exige. Cette conviction nous rendra résignés en toute chose et nous fera accepter tout ce qui arrive non comme venant de la créature, mais comme venant de lui-même. Mais je vous en prie, vous qui souhaitez sincèrement vous donner à Dieu, après avoir fait ce don, ne vous reprenez pas. Souvenez-vous qu'un présent, une fois offert, n'est plus à la disposition du donateur. la résignation est d'une importance capitale dans notre progrès, elle est la clé de la cour intérieure, de sorte que quiconque sait véritablement se résigner devient bientôt parfait. Nous devons donc y demeurer fermes et inébranlables, et ne pas écouter la voix de la raison naturelle. Une grande foi produit une grande résignation, nous devons nous confier en Dieu, espérant contre toute espérance. La résignation consiste à se dépouiller de tout souci égoïste, afin d'être entièrement à la disposition divine. Tous les chrétiens sont exhortés à la résignation, car il est dit à tous : « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car votre Père céleste sait tout ce qui vous est nécessaire. Dans toutes tes voies reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Remets tes œuvres au Seigneur, et tes pensées seront affermies. Remets ta voix au Seigneur, confie-toi aussi en lui, et il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton jugement comme le plein midi. » Cette vertu s'exerce en perdant continuellement notre propre volonté dans la volonté de Dieu, en étant résigné en toutes choses, laissant le passé dans l'oubli, l'avenir, après avoir fidèlement fait notre part à sa direction et consacrant le moment présent à lui, n'attribuant rien de ce qui nous arrive à la créature, mais regardant toutes choses comme venant de son ordonnance, et considérant tout sauf seulement nos péchés, comme procédant infailliblement de lui. Abandonnez-vous donc à être conduit et disposé selon son bon plaisir. Nous devons coopérer de bon gré au dessein de Dieu et les seconder, eux qui tentent à nous dépouiller de toutes nos propres opérations afin que les siennes soient instituées à leur place. Que cela donc s'accomplisse en vous, et ne vous attachez à rien, si bon que cela puisse paraître, car ce n'est plus bon si cela, en quelque mesure, vous détourne de ce que Dieu veut de vous. La volonté divine est préférable à toute chose, et c'est notre conformité à ce joug qui nous introduit dans les régions de la paix intérieure. Ainsi, nous pouvons savoir que la rébellion de notre volonté est la principale cause de toutes nos inquiétudes, et que c'est pour cela que nous souffrons tant d'étroitesse et de troubles. Or, si nous soumettions seulement nos volontés à la volonté divine et à toutes ses dispositions, quelle tranquillité nous sentirions, quelle douce paix, quelle sérénité intérieure. Quelle félicité suprême, et quels avant-goûts de béatitude. Sequons donc toute attache aux intérêts du moi, et vivons uniquement de foi et de résignation. 12. Sur la vertu, c'est ainsi que nous acquérons la vertu avec facilité et certitude, car Dieu étant la source et le principe de toute vertu, à mesure que nous nous approchons de la possession de lui, dans la même mesure nous nous élevons dans les vertus les plus éminentes. En effet, celui qui a Dieu a toute chose et celui qui ne l'a pas n'a rien. Toute vertu n'est qu'un masque, une apparence extérieure changeante comme nos vêtements, si elle ne jaillit pas de cette source divine, et alors, en vérité, elle est authentique, essentielle et permanente. La fille du roi, disait David, est toute glorieuse au-dedans. 13. Sur la conversion, revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Revenez à celui contre qui vous vous êtes révolté. Être véritablement converti, c'est se détourner totalement de la créature et se tourner totalement vers le Créateur. Pour obtenir le salut, il est absolument nécessaire que nous abandonnions le péché extérieur et que nous nous tournions vers la justice. Mais cela seul n'est pas la conversion parfaite, laquelle consiste dans un changement total de l'homme tout entier, d'une vie extérieure à une vie intérieure. Quand l'âme est une fois tournée vers Dieu, elle trouve une merveilleuse facilité à demeurer ferme dans sa conversion. Et plus longtemps elle demeure ainsi convertie, plus elle s'approche et plus elle s'attache fermement à Dieu, et plus elle se rapproche de lui, nécessairement plus elle s'éloigne de cet esprit qui lui est contraire. Ainsi l'âme est si efficacement établie et enracinée dans sa conversion qu'elle lui devient, en quelque mesure, naturelle. Or, nous ne devons pas supposer que cela s'opère par un effort violent de ses propres puissances, car l'âme n'est pas capable de, et ne doit pas tenter, d'autre coopération avec la grâce divine que celle de s'efforcer de se retirer des objets extérieurs, et de se tourner vers l'intérieur, après quoi elle n'a rien d'autre à faire que de demeurer ferme dans son adhésion à Dieu. Il possède une vertu attractive, qui attire l'âme vers lui de plus en plus puissamment à mesure qu'elle s'approche de lui, et en l'attirant, il la purifie et l'affine, comme il en est d'une vapeur grossière exhalée par le soleil, qui à mesure qu'elle s'élève graduellement, se raréfie et devient pure. La vapeur en effet, ne contribue à son exhalation que par sa passivité, mais l'âme coopère à l'attraction de la pureté par une correspondance libre et affectueuse. Ce retour de l'esprit vers l'intérieur devient finalement à la fois facile et efficace, faisant avancer l'âme naturellement et sans contrainte, parce que Dieu lui-même est le centre qui l'attire. Toute notre sollicitude et notre attention doivent donc être d'acquérir le silence intérieur, et ne nous laissons pas décourager par les peines et les difficultés que nous rencontrons dans cet exercice, qui seront bientôt compensées par des secours si abondants de la force divine qu'ils rendront l'exercice parfaitement facile, pourvu que nous soyons fidèles à retirer doucement nos cœurs des objets et des satisfactions extérieures, et à revenir à notre centre, avec des affections pleines de tendresse et de sérénité. Quand, à quelque moment, les passions sont turbulentes, un doux retrait au-dedans vers un dieu présent les amortit et les apaise aisément, et toute autre manière de lutter contre elles les irrite plutôt qu'elles ne les calment. La puissance divine, autrefois, apaisa instantanément une mer tumultueuse et déchaînée, et pouvons-nous maintenant douter que, si nous nous adressons sincèrement à lui dans notre détresse, il apaisera les tumultes de l'âme agitée ? 14. Sur l'anéantissement de soi, l'âme est rendue apte à l'union avec Dieu en livrant le moi à la puissance destructrice et anéantissante de l'amour divin. Astérisque, c'est, en vérité, un sacrifice des plus essentiels et nécessaires dans la religion chrétienne, et le seul par lequel nous puissions rendre un véritable hommage à la souveraineté de Dieu. Par la soumission du moi en nous, nous reconnaissons véritablement l'existence suprême de Dieu, car si nous ne cessons pas d'exister pour nous-mêmes, l'esprit de la parole éternelle ne peut exister en nous. Or, c'est en abandonnant notre propre vie que nous faisons place à sa venue, et en mourant à nous-mêmes, lui-même vit et demeure en nous. De la parole du Seigneur au-dedans, les gens n'ont pas entendu que vous pouvez perdre votre vie. Vous devez perdre votre vie pour la sauver. L'esprit de grâce à la fois accusé haute, tout comme Jésus a dit « et repentez-vous » et a aussi guéri. La grâce détruit le péché. Par la miséricorde et la grâce, le mal est ôté de votre cœur. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Au mieux, vos pensées ne sont qu'un sifflement vain. Ce sont les nombreuses pensées qui font l'homme mortel. Ceux qui suivent leur propre cerveau pleureront et se lamenteront, il y aura une grande douleur. L'esprit est une chose terrible. L'esprit n'est pas soumis à la loi, et il ne peut pas l'être. Nous peinons avec un esprit maudit, car l'esprit charnel n'est ni soumis à la loi de Dieu, ni ne peut l'être. Ce qui est dans l'inimitié doit mourir. Toutes les pensées doivent être rejetées. Je voudrais que tous les appels vers moi soient arrêtés. Il y a une bénédiction pour rendre permanente la cessation de l'esprit. Soyons patients, nous devons croître dans le silence. Vous devez continuer à attendre, à veiller et à écouter, alors nos cœurs seront rendus paisibles par la grâce. Continuez à chercher la paix. Grande sera votre paix si vous persévérez fidèlement. Vous recevrez un cœur et un esprit nouveaux. Grandissez dans la pensée du Christ, d'où procèdent toutes les bonnes pensées. Savoir n'est pas penser. Prendre des décisions, c'est vivre dans votre esprit charnel. On meurt sur la croix. Endurer sur la croix, c'est mourir. Il y a une haine de la vie associée à la louange dans la mort. Il n'y a pas parmi nous de fardeau de mort. Nous devons, en effet, livrer tout notre être au Christ, et cesser de vivre désormais en nous-mêmes, nous nous perdons en lui. Et cela ne peut s'accomplir que par l'anéantissement de soi, qui, étant la véritable prière d'adoration astérisque, rend à Dieu et à l'agneau la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, ne vous y trompez pas, l'anéantissement de soi n'est ni le silence, ni une prière, ni quelque forme de remise de soi. L'anéantissement de soi n'est pas un exploit à réaliser par soi-même. Ne vous méprenez pas sur le véritable but. L'anéantissement de soi exige que votre esprit soit détruit par l'Esprit de Dieu. L'auto-anéantissement exige que votre imagination soit crucifiée par l'Esprit de Dieu. Vous devez mourir chaque jour jusqu'à ce que votre esprit charnel, votre esprit égoïste et votre cœur souillé soient totalement détruits et circoncis par l'Esprit, pour être remplacés par un cœur nouveau, un esprit nouveau et un esprit nouveau, jusqu'à ce que vous puissiez dire véritablement, comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » = 2:20. Comme George Fox l'a écrit, « Vous devez être en communion avec Christ dans ses souffrances. 1 Pi 4:12-13 si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2:12 si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2:11 et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6:4 et enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. » Col 2:12 quand votre esprit satanique a été crucifié, quand votre esprit charnel qui ne peut être soumis à la loi de Dieu a nécessairement été détruit, quand votre imagination mauvaise a été détruite, alors le Seigneur fournit toutes vos pensées, vous donne les paroles à dire, et vous montre ce qu'il veut que vous fassiez, tandis que vous vous tenez en sa présence, ayant été transporté dans son royaume. Alors et alors seulement, vous êtes véritablement juste. Alors et alors seulement, vous avez la vraie joie de la sainteté. Alors et alors seulement, vous avez pour toujours un esprit calme et une assurance confiante qui est la vraie paix. Alors et alors seulement, vous êtes une nouvelle créature, mais il vous faut d'abord perdre totalement votre vie. C'est la prière de vérité, astérisque c'est adorer Dieu en esprit et en vérité, parce qu'ici nous en venons à connaître l'esprit qui aide nos infirmités et intercède pour nous. Et étant ainsi influencés par le pur esprit de Dieu, nous sommes alors tirés en avant et délivrés de notre manière charnelle et corrompue de prier. Nous ne pouvons rendre un honneur dû au Tout-Puissant que dans notre propre anéantissement, qui, à peine accompli, est aussitôt comblé de lui-même par celui qui ne souffre jamais le vide dans la nature. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, je le répète. Ne vous y trompez pas, l'anéantissement de soi n'est une prière d'aucune sorte. Adorer Dieu en esprit et en vérité est indispensable, mais ce n'est pas l'anéantissement de soi, ni une prière silencieuse, ni l'attente. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une adoration gouvernée par toutes les paroles fournies par l'Esprit de Dieu et par l'onction, qui est la vérité. Pour être dans la vérité, vous devez être en union avec le Christ, qui est la vérité, et si vous êtes en union avec lui, vous êtes parfait, accompli, ne manquant de rien. Attendre Dieu dans un silence humble, en entendant et en obéissant, mène à l'anéantissement de soi. L'anéantissement de soi mène à recevoir l'onction, et l'Esprit en mesure suffisante pour fournir toutes les pensées, paroles et œuvres à accomplir, et ces paroles fournies incluent les paroles de louange et d'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Si nous connaissions les vertus et les bénédictions que l'âme retire de cette espèce de prière, nous nous y adonnerions volontiers sans cesse. Le royaume de Dieu et sa justice est la perle de grand prix. C'est le trésor caché, et Jésus nous a assuré que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, et cela est vrai en deux sens. D'abord, Dieu devient si pleinement le maître et le seigneur en nous que notre intérieur est son royaume, et ensuite, lorsque nous possédons Dieu, qui est le bien souverain, nous possédons aussi son royaume, où il y a plénitude de joie, et où nous atteignons la fin de notre création. La fin de notre création, en effet, est de jouir de notre Dieu, dès cette vie, mais hélas, combien peu sont ceux qui parviennent jamais à connaître la pure joie que donne sa présence. 15. L'homme agit plus noblement sous la direction divine qu'il ne pourrait jamais le faire en suivant sa propre volonté. Certaines personnes, lorsqu'elles entendent parler de la prière de silence, s'imaginent faussement que l'âme demeure morte et inactive, mais sans aucun doute, elle agit plus noblement et plus largement qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, car Dieu lui-même en est le moteur, et elle agit maintenant par l'opération de son esprit. Quand Paul parle d'être conduit par l'Esprit de Dieu, il ne veut pas dire que nous devions cesser d'agir, mais que nous devons agir par l'opération intérieure de sa grâce. Cela est finement représenté par la puissance, dans la vision du prophète Ézéchiel, des roues qui avaient un esprit vivant, et partout où l'esprit devait aller, elles allaient, elles montaient et descendaient selon qu'elles étaient mues, car l'esprit de vie était en elles, et elles ne se détournaient point dans leur marche. Ainsi l'âme doit être également soumise à la volonté de cet esprit vivifiant par lequel elle est éclairée, et scrupuleusement fidèle à ne suivre que là où il la meut. Notre activité doit donc consister à nous efforcer d'acquérir et de maintenir un état qui soit le plus susceptible des impressions divines, le plus flexible à toutes les opérations de la parole éternelle. Tant qu'une tablette est instable, le peintre est incapable d'en tracer une copie fidèle. De même, chaque acte de notre esprit propre et égoïste produit des traits faux et erronés. Il interrompt l'œuvre et déjoue le dessin de cet adorable peintre. Nous devons donc demeurer en paix et ne bouger que lorsqu'il nous meut. Jésus-Christ a la vie en lui-même, et cette vie est la vie de toute âme vivante. Comme toute action n'est estimable qu'en proportion de la dignité du principe efficient, cette action est incontestablement plus noble que toute autre. Les actions produites par un principe divin sont divines, mais les actions de la créature, quelque bonnes qu'elles puissent paraître, ne sont qu'humaines. Le Christ, la parole, a la vie en lui-même, et, étant communicatif de sa nature, il désire la communiquer à l'homme. Nous devons donc faire place à l'influx de cette vie, ce qui ne peut se faire que par l'expulsion de la nature déchue et la suppression de l'activité du moi. Cela s'accorde avec l'affirmation de Paul, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mais cet état ne peut être accompli que par la mort à nous-mêmes et à toute notre propre activité, afin qu'une influence céleste soit substituée à leur place. » L'homme peut, en effet, ouvrir la fenêtre, mais c'est le Fils lui-même qui doit donner la lumière. Jésus en a donné l'exemple dans l'Évangile, « M'en faisait ce qui était juste, mais parce qu'elle le faisait dans son propre esprit, il l'a repris. L'esprit de l'homme est inquiet et turbulent, c'est pourquoi il fait peu, quoiqu'il semble faire beaucoup. « M'en, dit Jésus, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Et qu'avait choisi Marie, astérisque le repos, la tranquillité et la paix. Elle cessa apparemment d'agir, afin que l'Esprit du Christ agît en elle, elle cessa de vivre, afin que le Christ fût sa vie. » Astérisque commentaire de l'éditeur du site, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses paroles, les paroles qu'il nous dit du dedans de nos cœurs, paroles qui sont esprit et qui donnent la vie. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi s'assit aux pieds de Jésus et écouta sa parole. Luc 10, 39 « Assurément il aime les peuples, tous tes saints sont dans ta main, et il s'assoit à tes pieds chacun recevant tes paroles. » 2:33-3 Nous aussi, nous devons nous asseoir en silence et attendre le Seigneur pour écouter, entendre et obéir. De la parole du Seigneur au-dedans, dans un silence humble, nous nous asseyons et attendons. Assieds-toi avec moi, et je te rendrai pur. Assieds-toi avec moi, et je révélerai tout. Suis-moi aussi vite que tu peux, tu commences par t'asseoir. Pierre, dans l'ardeur de son affection, dit à Jésus que, pour lui, il était prêt à donner volontairement sa vie, mais à la parole d'une jeune servante, il le renia. Les nombreux troubles de la vie viennent de ce que l'âme ne demeure pas à sa place et ne se contente pas de la volonté de Dieu et de ce qui y est accordé de temps en temps. Bien des âmes peuvent être résignées quant à la volonté générale et pourtant manquées quant au moment présent, étant hors de la volonté de Dieu, elles tombent. Elles renouvellent ces chutes tant qu'elles demeurent hors de la volonté divine, quand elles y reviennent, tout va de nouveau bien. Dieu aime ce qui est fait selon son propre ordre, sa propre volonté et son temps, et tandis que vous vous y livrez fidèlement, vous ferez toutes choses comme il faut. Tous les hommes ont des affections et des convoitises, sauf ceux qui vivent dans la volonté divine. Certains de ces désirs peuvent paraître bons, mais à moins qu'ils ne soient selon la volonté de Dieu, celui qui demeure dans la volonté divine, bien qu'exempt de tous ses désirs, est infiniment plus paisible et glorifie davantage Dieu. Cela nous montre combien il est nécessaire de renoncer à nous-mêmes et à toute notre propre activité pour suivre le Christ, et nous ne pouvons le suivre sans être animés de son esprit. Or, pour que son esprit soit admis en nous, il faut que notre esprit soit d'abord subjugué, et celui qui est uni au Seigneur, disait Paul, est un seul esprit. Toutes choses doivent se faire en leur saison. Chaque état a son commencement, son progrès et son accomplissement, et c'est une erreur malheureuse de s'arrêter au début. Il n'y a rien qui n'ait son déroulement, et d'abord il nous faut travailler avec diligence et peine, mais à la fin nous récolterons la moisson de notre labeur. Quand le navire est au port, les marins sont obligés de déployer toutes leurs forces pour le dégager et prendre la mer, mais enfin ils le manœuvrent avec facilité selon leur gré. De même, tant que l'âme demeure dans le péché et dans les enchevêtrements de la créature, il faut des efforts très fréquents et vigoureux pour opérer sa délivrance. Les cordes qui la retiennent doivent être déliées. Puis, par de forts efforts, elle s'éloigne peu à peu de son ancien port, et le laissant au loin, elle avance vers le havre où elle veut se diriger. Quand le navire est ainsi mis en mouvement, à mesure qu'il avance sur la mer, il laisse la terre derrière lui, et plus il s'éloigne de son ancien port, moins il faut de peine et de travail pour le faire aller de l'avant. Enfin, il glisse doucement sous voile, et il avance maintenant si vite dans sa course que l'aviron, devenu inutile, est mis de côté. À quoi le pilote s'emploie-t-il alors? Il se contente de déployer les voiles et de tenir le gouvernail. Déployer les voiles, c'est ouvrir l'esprit devant Dieu afin qu'il soit mu par son esprit. Tenir le gouvernail, c'est retenir le cœur de s'écarter du vrai cours, le rappelant doucement et le guidant avec constance selon les directions du bienheureux esprit, qui en prend peu à peu possession et empire, comme le vent qui, graduellement, remplit les voiles et pousse le navire. Tant que les vents sont favorables, les marins se reposent de leurs travaux, et le navire glisse rapidement sans qu'ils peinent. Et lorsqu'ils se tiennent ainsi en repos et abandonnent le navire au vent, ils avancent davantage en une heure qu'ils n'avaient avancé en un long temps par leurs efforts précédents. S'ils tentaient alors même d'employer la rame, non seulement ils se fatigueraient, mais ils retarderaient le navire par des travaux mal à propos. C'est là la manière d'agir que nous devrions suivre intérieurement. Elle nous fera, en effet, avancer en très peu de temps, sous l'influence divine, infiniment plus loin qu'une vie entière passée en actes répétés d'efforts personnels. Si le vent est contraire et qu'il souffle la tempête, au lieu de prendre la mer, nous devons jeter l'ancre pour maintenir le navire. Notre ancre est une ferme confiance et espérance en la puissance divine, attendant patiemment l'apaisement de l'orage et le retour d'un vent plus favorable, comme David attendit patiemment l'Éternel, et il s'inclina vers lui et entendit son cri. Nous devons donc nous abandonner à son esprit, nous livrant tout entier à sa conduite divine, ne nous laissant jamais troubler par aucun accident, car l'inquiétude est la porte par laquelle l'ennemi entre dans l'âme pour lui ravir sa paix. Nous ne devons pas non plus nous soucier ni nous occuper de ce que les autres disent et font, car ce sera pour nous une grande cause de trouble. Apaisons tous les mouvements de notre cœur, dès que nous le voyons agité. Calmons tout plaisir qui ne vient pas d'une source pure. Écartons toute pensée et rêveries inutiles. Cherchons avec soin Dieu au-dedans de nous, et nous le trouverons infailliblement, et avec lui la joie et la paix. Une joie et une paix qui demeureront au milieu de la souffrance, et qui, jaillissant d'une source inépuisable, deviennent une fontaine perpétuelle de délices. « Je vous laisse la paix, dit le Christ, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Si nous connaissions la béatitude d'écouter Dieu, et combien l'âme en est vivifiée et fortifiée, toute chair se tairait assurément devant lui, tout serait immobile dès qu'il paraîtrait. Mais pour nous engager davantage dans une résignation sans bornes, il nous assure, par le même prophète, que nous ne devons rien craindre en nous abandonnant à lui, parce qu'il prend soin de nous, dépassant la plus haute tendresse dont nous puissions nous faire une idée. Une femme, dit-il, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite, ne pas avoir compassion du fils de ses entrailles? Oui, elle peut oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. ô bienheureuse assurance pleine de consolation, qui, après cela, craindra de s'abandonner entièrement à la dispensation et à la conduite de son Dieu. Tous les hommes cherchent la paix, mais ils la cherchent là où elle ne se trouve pas. Ils la cherchent dans le monde, qui promet toujours, mais ne peut jamais nous donner une paix solide, car où que nous allions, nous emporterons cette source de toute perplexité, notre propre volonté indomptée et égoïste. L'amour de la liberté est l'une des passions les plus dangereuses du cœur. Si nous suivons cette inclination, au lieu de la vraie liberté, elle nous réduit à l'esclavage. Comme nos passions sont les pires des tyrans, si nous leur obéissons partiellement, nous devons toujours être en un combat et une lutte perpétuelles au-dedans. Et si nous nous y abandonnons entièrement, il est horrible de penser aux extrémités où elles nous conduiront. Elles tourmenteront le cœur et, comme un torrent, emporteront tout devant elles, sans jamais être satisfaites. La vraie liberté ne se trouve qu'en celui dont la vérité nous rendra libres et qui nous fera éprouver que le servir, c'est régner. Cette piété par laquelle nous sommes sanctifiés et entièrement consacrés à Dieu consiste à faire exactement sa volonté en toutes les circonstances de la vie. Faites les pas que vous voudrez, accomplissez les œuvres que vous voudrez, brillez d'éclat, vous ne serez pourtant récompensé que pour avoir fait la volonté de votre souverain maître. Quand bien même votre serviteur ferait des merveilles dans votre maison, s'il ne faisait pas ce que vous exigez, vous n'estimeriez pas son service, et vous pourriez à juste titre vous plaindre de lui comme d'un mauvais serviteur. Il n'y a pas de bon esprit, sinon celui de Dieu. Cet esprit qui nous détourne du vrai bien n'est qu'un esprit d'illusion, quelque flatteur qu'il puisse paraître. Qui voudrait être emporté dans un magnifique char sur le chemin d'un abîme, le chemin qui mène à un précipice est effrayant, quand même il serait couvert de roses, mais le chemin qui mène à une couronne est délicieux, quand même il serait tout hérissé d'épines. Il nous a donné son bon esprit pour nous instruire, l'esprit de grâce. Ne suivons donc plus notre propre volonté mais la sienne, afin que non seulement nos actions religieuses mais aussi toutes les autres soient faites sans autre vue que de lui plaire, alors toute notre conduite sera sanctifiée, alors nos actes deviendront un sacrifice continuel, et une prière incessante et un amour ininterrompu occuperont le cœur. Soumettons-nous donc à l'anéantissement de notre propre volonté, afin que sa volonté règne en nous. Car commander est sa prérogative, obéir est notre devoir. 16. Sur la possession de la paix et du repos devant Dieu, l'âme fidèle dans l'exercice de cet amour et de cette adhésion à Dieu déjà décrit s'étonne de le sentir prendre peu à peu possession de tout son être, et elle jouit maintenant d'un sentiment continuel de cette présence, devenue pour ainsi dire naturelle en elle. Cette présence répand en nous une sérénité extraordinaire dans toutes nos facultés, elle calme l'esprit et donne un doux repos et une tranquille quiétude, même au milieu de nos travaux quotidiens. Mais alors nous devons nous abandonner à lui sans réserve. Nous devons toutefois insister, comme sur une chose de la plus haute importance, pour cesser toute action propre et tout effort personnel, afin que la puissance divine agisse seule. Il a dit par la bouche de son prophète David, « Tenez-vous en repos, et sachez que je suis Dieu. » Pourtant, cela se trompe fort qui accuse cette espèce de prière d'oisiveté, reproche qui ne peut venir que de l'inexpérience. S'ils faisaient seulement quelques efforts pour y parvenir, ils éprouveraient bientôt le contraire de ce qu'ils supposent et trouveraient leur accusation sans fondement. Cette apparence d'inaction n'est, en effet, pas la conséquence de la stérilité et du manque, mais de la fécondité et de l'abondance. L'âme expérimentée le saura clairement et saura et sentira que son silence est plein et onctueux, et le résultat de cause tout à l'opposé de l'apathie et de l'aridité. L'intérieur n'est pas une forteresse à prendre par l'assaut et la violence, mais un royaume de paix qui ne se gagne que par l'amour. Livrons-nous donc à Dieu sans appréhension de danger. Il nous aimera et nous rendra capables de l'aimer, et cet amour, croissant chaque jour, produira en nous toutes les autres vertus. Lui seul peut remplir nos cœurs que le monde a agités et enivrés, mais qu'il n'a jamais pu combler. Il ne nous ôtera rien que ce qui nous rend malheureux. Car beaucoup de choses que nous avons autrefois consumées dans nos convoitises, nous les emploierons maintenant, avec reconnaissance, à pourvoir à nos besoins, envers notre grand Créateur de toutes bonnes choses. Alors les actions les plus ordinaires et apparemment indifférentes deviendront des exercices de vertu et des sources de consolation. Nous verrons en paix l'approche de la mort, comme le commencement de la vie immortelle. Et comme Paul l'a dit, nous ne serons pas dépouillés mais revêtus, et la mortalité sera engloutie par la vie. Ne craignons donc plus de nous confier tout entiers à lui. Quel risque courons-nous en ne dépendant que de sa bonté? Ah! Il ne nous trompera pas, sinon en nous accordant une abondance au-delà de nos plus hautes espérances. Mais ceux qui attendent tout de même seront inévitablement trompés et devront subir ce reproche du prophète Ésaïe. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lueur de votre feu et parmi les étincelles que vous avez allumées. Vous aurez ceci de ma main, vous vous coucherez dans la douleur. L'âme parvenue jusque-là n'a besoin d'aucune autre préparation que du recueillement, car maintenant la présence divine, qui est le grand effet, ou plutôt la continuation de la prière, commence à se faire sentir puissamment. Et l'âme éprouve ce que l'apôtre Paul a dit. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. L'âme jouit, certes, d'une béatitude transcendante, et sent que ce n'est plus elle qui vit, mais que c'est Christ qui vit en la personne, et que l'unique moyen de le trouver est de tourner l'esprit vers l'intérieur. À peine le faisons-nous, que nous sommes remplis des consolations de sa présence, nous sommes si étonnés d'une si grande bénédiction, et nous jouissons de l'entretien intérieur, que les choses extérieures ne peuvent interrompre. Il a dit que si nous gardons ses paroles, nous l'aimons. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 7. Sur la perfection, où l'union de l'âme avec Dieu l'état le plus utile et le plus désirable en cette vie est celui de la perfection chrétienne, qui consiste dans l'union de l'âme avec la pureté infinie, union qui renferme en elle tout bien spirituel, produisant en nous une liberté d'esprit, qui nous élève au-dessus de tous les événements et changements de cette vie, et nous délivre de la tyrannie de la crainte humaine. Elle donne une puissance extraordinaire pour bien accomplir toutes nos actions et nous acquitter dignement de nos charges. Il est impossible d'atteindre l'union divine uniquement par l'activité de la méditation, ou par les attendrissements des affections, ou par le plus haut degré de prière lumineux et élégamment composé, car selon l'Écriture, nul homme ne verra Dieu et ne vivra. Or, tous les exercices de prière non silencieuse, et même de contemplation active, étant accomplis dans la vie de notre propre volonté, nous ne pouvons ainsi voir Dieu, car tout ce qui est de la puissance ou de l'effort de l'homme doit d'abord mourir, si noble soit-il, si élevé soit-il. Jean rapporte qu'il y eut silence dans le ciel. Or, le ciel représente le centre de l'âme, où apparaît toute la majesté divine, tout doit y être réduit au silence. Tous les efforts, non, l'existence même de l'amour-propre doit être détruite, parce que c'est la volonté naturelle qui s'oppose à Dieu, et que toute la malignité de l'homme en procède, de sorte que la pureté de l'âme augmente à mesure que la volonté naturelle est soumise à sa volonté. Ainsi, l'âme ne peut jamais parvenir à l'union que par l'anéantissement de sa volonté, ni devenir jamais une avec le Père, sinon en étant rétablie dans la pureté de sa première création. Dieu purifie l'âme par son amour, comme les affineurs purifient les métaux dans la fournaise. L'or ne peut être purifié que par le feu, qui en sépare peu à peu et consume tout ce qui est mondain et hétérogène, il doit être fondu et dissous, et tous les mélanges impurs ôtés, en le jetant encore et encore dans la fournaise. Ainsi il est affiné de toute corruption intérieure, et même élevé à un état qui ne permet plus de purification. Il ne contient plus de mélange adultéré, sa pureté est parfaite, sa simplicité entière, et il est propre aux ouvrages les plus exquis. Ainsi pouvons-nous voir que l'Esprit divin, comme un feu incessant, doit dévorer et détruire tout ce qui est terrestre, sensuel et charnel, et toute activité propre, avant que l'âme puisse être rendue apte et capable d'union avec Dieu et Christ. Je rendrai l'homme plus précieux que l'or fin. Mais quand la parole qui était au commencement se met à brûler, à détruire et à purifier, alors l'âme, ne percevant pas le dessein salutaire de ses opérations, s'en retire. Et comme l'or semble plutôt noircir que s'éclaircir lorsqu'on le met d'abord dans la fournaise, de même l'âme conçoit que sa pureté est perdue et que ses tentations sont ses péchés. Mais tandis que nous confessons que la jouissance de Dieu est la fin pour laquelle nous avons été créés, que sans la sainteté nul ne peut y parvenir, et que pour y parvenir, il nous faut nécessairement passer par un sévère processus de purification, combien il est étrange que nous redoutions et évitions ce processus, comme s'il pouvait être la cause du mal et de l'imperfection dans la vie présente, lui qui doit produire la gloire et la béatitude dans la vie à venir. Que tous, donc, s'avancent vers le but, vous laissant guider et gouverner par l'Esprit de grâce, qui vous changera infailliblement et vous conduira au terme de votre création, la pureté et la jouissance de l'union avec Dieu et Christ. On dira peut-être que certains prétendent avoir atteint cet état bienheureux, mais hélas! Nul ne peut plus le prétendre que le misérable qui est sur le point de périr de faim ne peut, longtemps, prétendre être rassasié et satisfait. Quelque souhait ou parole, quelque soupir ou signe, lui échappera inévitablement et trahira son état de famine. Soyez parfait, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. L'âme, demeurant dans sa volonté déréglée, est imparfaite, elle devient plus parfaite à mesure qu'elle s'approche davantage de la volonté divine. Lorsqu'une âme est avancée au point de ne pouvoir en rien s'écarter de la volonté divine, elle est alors entièrement parfaite, s'unit à la nature divine et y est transformée. Et ainsi purifiée et unie à la pureté infinie, elle trouve une paix profonde et un doux repos qui la conduit à une union d'amour si parfaite qu'elle est remplie de joie. Elle se conforme à la volonté du grand principe en toutes occurrences et se réjouit en toutes choses d'accomplir le bon plaisir divin. Le Seigneur s'approche d'une telle âme et se communique intérieurement à elle. Il la remplit de lui-même parce qu'elle est vide, la revêt de sa lumière et de son amour parce qu'elle est nue, l'élève parce qu'elle est abaissée et l'unit à lui-même. Si vous voulez entrer dans ce ciel sur la terre, oubliez tout souci et toute pensée anxieuse, sortez de vous-même, afin que l'amour de Dieu vive dans votre âme, de sorte que vous puissiez dire avec l'apôtre, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Astérisque, que nous serions heureux si nous pouvions tout quitter pour lui, ne le chercher que lui, ne soupirer qu'après lui, que lui seul est nos soupirs. Oh, si seulement nous pouvions avancer sans interruption vers cet état bienheureux, Dieu nous appelle à le faire et à venir à lui. Il nous invite à entrer dans notre centre intérieur, où il nous renouvellera et nous changera, et nous montrera un royaume nouveau et céleste, plein de joie, de paix, de contentement et de sérénité. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, pour que l'amour de Dieu vive dans votre âme, vous devez mourir sur la croix intérieure du renoncement à vous-même. D'après la parole du Seigneur au-dedans, s'asseoir dans un humble silence, attendant le Seigneur, c'est porter la croix, au lieu de penser à la manière dont vous pourriez plaire aux autres. L'œuvre de la croix consiste à s'asseoir dans la lumière et à regarder sa volonté. La croix, c'est obéir au commandement du Seigneur qu'il vous donne pour vous repentir, abandonner vos mauvaises conduites et vos conversations. L'obéissance à ces commandements est absolument cruciale pour qu'un progrès spirituel soit possible et vous devez continuer à obéir. Obéir, c'est le suivre. L'âme spirituelle, abstraite et retirée, a ici une paix qui n'est plus brisée, quoiqu'extérieurement elle puisse rencontrer des combats, et qu'elle puisse parfois être nue, abandonnée, attaquée et désolée parce que, à cause de la distance infinie, les tempêtes n'atteignent jamais ce ciel très serein au-dedans, où réside l'amour pur et parfait. Car bien que le prince des ténèbres puisse en effet lancer contre elle de violents assauts, elle gagne pourtant du terrain sur eux et demeure comme un solide pilier. Il ne lui arrive rien de plus que ce qui arrive à une haute montagne pendant l'orage. La vallée s'obscurcit de nuages épais, de violentes tempêtes de grêle et de tonnerre, tandis que la haute montagne étincelle des vifs rayons du soleil, dans le calme et la sérénité demeurant clair comme le ciel, immobile et pleine de lumière. Une telle âme, en vérité, est un mont Sion qui ne peut être ébranlé mais demeure pour toujours. Sur ce trône de quiétude se manifestent les perfections de la beauté spirituelle. Ici nous jouirons de la vraie lumière des mystères secrets et divins du Christ, de l'humilité parfaite, de la résignation la plus entière, de la douceur et de l'innocence de la colombe, de la liberté et de la pureté de cœur. Ici se voit une simplicité joyeuse, une indifférence céleste, une prière continuelle, un dépouillement total, un désintéressement parfait et une conversation du ciel. C'est le riche trésor caché, c'est la perle de grand prix.